Si tout le monde est installé, on va commencer. Ça fera venir les retardataires. Bienvenue à tous. Merci d'être présents à cette 82e conférence du Pôle Info Santé. Alors, pour ceux qui viendraient pour la première fois, même s'il y a beaucoup de fidèles, ces rendez-vous sont le fruit d'un partenariat entre le CHU, qui a une mission d'éducation à la santé, et puis le Centre de culture scientifique Espace Mendès France, qui nous accueille ici depuis maintenant 14 ou 15 ans, parce que le temps passe vite, donc ça doit faire à peu près ça. Donc l'objet de ces conférences au rythme de 4 par an, c'est de permettre au grand public d'échanger avec des professionnels de santé, de changer sur des grands sujets de société, de santé publique. Celui dont nous allons parler ce soir intéresse tout le monde, de près ou de loin. Donc comment va se passer la soirée? Je vais passer la parole à nos 4 intervenants qui vont se présenter, qui vont faire un exposé donc sur les cancers, la fréquence et les dépistages. Ensuite, ils vont vous laisser la parole. Vous pourrez échanger avec eux, poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez 2 façons. Il y aura des micros qui circuleront dans la salle. Et puis, vous avez dans les documents qui vous ont été remis un questionnaire pour poser les questions. Si vous êtes timide, c'est moi qui les donnerai au micro. Voilà. Juste avant de leur laisser la parole. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Juste avant de leur laisser la parole, vous avez aussi dans les documents qui vous ont été remis, outre une documentation qui vous permettra de repartir avec des informations, des renseignements sur des sites internet, etc., vous avez un questionnaire d'évaluation à l'intérieur. Merci de songer à le remplir et de le remettre aux hôtesses avant de partir tout à l'heure. Mais pour l'instant, je laisse la parole à nos intervenants. Merci.
Alors, bonsoir à tous. Je suis heureux d'être parmi vous pour cette soirée. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Ingrand, je suis épidémiologiste au CHU de Poitiers. Et je suis ici pour vous donner un peu le point de vue de l'épidémiologiste sur l'évolution de la fréquence des cancers. Je représente ici en fait 2 équipes, une qui est l'équipe qui met en place un registre des cancers au CHU de Poitiers, et puis également l'équipe de l'Observatoire régional de la santé, qui est une association dont j'assure la présidence. Donc je vous dis à tout à l'heure pour cette présentation.
Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc Tourani, je suis oncologue médical, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les traitements médicaux du cancer et je suis aussi le coordonnateur du pôle régional de cancérologie qui a ouvert il y a à peu près 3 semaines. Je suis là pour vous présenter de façon assez rapide malgré tout ce pôle régional et qu'est-ce que l'on peut attendre et qu'est-ce que l'on va trouver dans ce pôle régional.
Bonjour, donc Dominique Coste, je suis le médecin responsable, le médecin coordinateur du dépistage organisé des cancers dans la Vienne. L'association s'appelle DOPI, donc je suis là pour vous parler d'une conception nouvelle, de quelque chose d'assez nouveau quand même, qui est apparu dans le paysage de la cancérologie française, c'est le dépistage organisé des cancers.
Bonsoir, Bernard Gavit, je suis médecin généraliste à Neuville de Poitou. Je suis aussi responsable au niveau de la faculté de médecine du département de médecine générale qui s'occupe de l'enseignement des futurs médecins généralistes. Et bien sûr, ce soir, je vous parlerai du dépistage en médecine générale.
Alors, je vais avoir l'honneur de commencer cette présentation. Donc, j'ai préparé quelques diapositives pour illustrer un peu le propos. Quand on parle d'épidémiologie, on parle beaucoup de chiffres. Alors, je vais essayer de ne pas vous noyer sous les chiffres. Je cherche le lancement du diaporama. J'espère que vous voyez bien. D'accord. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour ici vous dire que donc le point de vue que je vous présente, c'est le point de vue de l'épidémiologiste. L'épidémiologiste, c'est celui qui s'intéresse à la fréquence des maladies et à la fréquence des déterminants, des éléments qui peuvent influencer la survenue ou l'évolution des maladies. En fait, on a été alerté récemment sur des évolutions importantes des risques de cancer en France et puis en particulier dans la région Poitou-Charentes. parce qu'on a eu, il y a quelques semaines, la publication de l'Atlas de la mortalité par cancer. Donc, j'illustrerai un tout petit peu, mais c'est un document qui est disponible sur le site de l'Institut national du cancer. Et ce document met en évidence des éléments qu'on connaissait déjà, mais les illustre de façon très, très marquante sur les inégalités entre les régions françaises face au risque de cancer. Et en particulier, dans la région Poitou-Charentes, eh bien, on retrouve un certain nombre de ces inégalités qu'on ne sait pas toujours bien expliquer. Je dirais même que le plus souvent, on ne fait que constater un certain nombre d'inégalités face à la maladie, face au risque de contracter la maladie ou face au risque d'évoluer défavorablement et de décéder précocement de la maladie. Donc c'est important de développer ce type d'analyse et c'est pour illustrer cet objectif que je vais, c'est sur ce point-là que je vais orienter ma présentation. Par exemple, dans le document sur l'Atlas de la mortalité publié par l'INCa, à partir des statistiques nationales de mortalité qui permettent de différencier les différentes causes de décès, ici, je vous ai repris la carte qui traduit la répartition des taux de mortalité par cancer, tout cancer confondu. En général, il ne faut pas mélanger tous les cancers parce que les cancers sont différents entre eux. Ils n'ont pas les mêmes déterminants, ils n'ont pas les mêmes évolutions. Mais d'un point de vue statistique, ici, je vous présente cet agrégat. Et les différences de couleurs que vous voyez sur les cartes traduisent les différences qu'on a entre les régions sur le risque de mourir d'un cancer. On met en évidence des régions qui sont à risque de décès plus élevé, comme le Nord, une région centre-est, et puis également la Bretagne, la Normandie. Et au contraire, les régions du Sud et les régions du centre-ouest sont dans une situation qui est sensiblement plus favorable, que ce soit chez les hommes, où les différences sont là les plus marquées, la figure que vous avez à gauche, et chez les femmes, à droite. Donc des disparités qui sont non négligeables, qui peuvent aller du simple au triple, selon les lieux du pays. Et puis ces inégalités, ces variations, elles ne sont pas que géographiques, elles sont également temporelles. La fréquence des cancers, et ici en particulier la mortalité des cancers, évolue dans le temps. Vous avez sur ce graphique l'évolution des taux de mortalité par cancer bronchopulmonaire depuis 1970 jusqu'aux données les plus récentes disponibles qui sont celles de 2005. Le temps que les statistiques soient complètes, vous voyez, ce rapport a été fait en 2008 et les données les plus récentes étaient celles de 2005. On a encore des problèmes de réactivité sur les statistiques de santé. Cette figure, elle vous met en évidence l'énorme différence qu'il y a dans le risque de mourir d'un cancer du poumon entre un homme et une femme. Vous voyez, les hommes ont la courbe en bleu et les femmes la courbe en rouge. Mais si on regarde un peu plus les tendances sur ces courbes-là, eh bien on voit que chez les hommes, la courbe a tendance à diminuer. Elle est montée, elle est passée par un maximum dans les années début des années 90, et puis depuis, ça diminue. Pas énormément, mais ça a tendance à diminuer. Et quand on regarde la courbe qui concerne les femmes, eh bien, d'accord, elle est beaucoup plus basse. Mais la tendance est très inquiétante, parce que la mortalité par cancer bronchopulmonaire progresse de façon, vous voyez, importante. Elle a doublé depuis ces 30 dernières années. Ça évoque le problème des actions de prévention. C'est le propos que je vais illustrer à travers cette figure. C'est que, finalement, la prévention du tabagisme n'a pas atteint ses objectifs auprès des jeunes filles en particulier. Et les jeunes filles qui fument, qui fumaient beaucoup, qui se sont libérées dans les années 70, eh bien, contractent, après de nombreuses années d'exposition, des cancers bronchopulmonaires. Au niveau de la région, on retrouve ces éléments d'inégalité, par exemple sur les cancers des intestins. Le principal est le cancer colorectal. La région Poitou-Charentes est, d'une façon générale, en situation de relative sous-mortalité par rapport au reste de la France. Mais quand on regarde plus particulièrement en fonction du sexe et selon les cantons ici ou selon les départements, eh bien, on voit des écarts importants et en particulier des statistiques relativement inquiétantes concernant une surmortalité qu'on estime à peu près à 35% dans les Deux-Sèvres. On manque encore d'explications pour pouvoir comprendre ces écarts de mortalité, mais en tout cas, ça alerte et ça renforce la perspective d'être actif dans le déploiement des actions de dépistage. Alors, la surmortalité, ici, ce qu'il faut voir, c'est que la mortalité relative des Deux-Sèvres est élevée par rapport au reste, mais en tendance, le nombre de décès a diminué. Alors, c'est des éléments qui sont des fois un petit peu délicats à interpréter quand on regarde des chiffres de mortalité. C'est que le nombre de décès peut diminuer, mais le nombre de cas peut augmenter. C'est le cas du cancer du côlon parce que le dépistage ou le diagnostic plus précoce, des traitements efficaces font diminuer le risque de décès sans faire diminuer le nombre de cancers que l'on peut observer. En ce qui concerne le cancer du sein, la région Poitou-Charentes est en situation qui est plutôt favorable par rapport à la France. On a une sous-mortalité qui place la région Poitou-Charentes dans une bonne position. Mais ici, contrairement au cancer colorectal, bien qu'il y ait une sous-mortalité relative dans la région Poitou-Charentes, il y a quand même une augmentation du nombre de décès par cancer du sein, parce que c'est un cancer qui est en progression. Alors, ces figures que je vous ai présentées sont tirées de travaux qui sont réalisés au niveau régional. Donc, je voulais vous présenter cette équipe et puis vous donner la référence du site internet sur lequel vous pourrez bientôt consulter cet atlas qui est décliné au niveau régional. Donc, c'est l'équipe de l'Observatoire régional de la santé. Mais je voudrais vous dire quand même quelques mots sur, finalement, quel sens ça a de faire des statistiques en santé et pourquoi c'est quelque chose qui est important et qu'il faut soutenir dans les politiques de santé publique. Bien parce que l'information épidémiologique, c'est un petit peu le service de renseignement des acteurs de santé. C'est ce qui va permettre de connaître la situation sanitaire et ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour guider de façon objective la mise en œuvre et le suivi des politiques de santé. Donc pour la prévention, pour le dépistage, pour améliorer les diagnostics, pour évaluer les traitements, améliorer les pronostics, s'intéresser à la qualité de vie, tout ça nécessite de recueillir et de suivre les informations, et on voit le lien avec la recherche biomédicale, l'information sur l'observation, mais également pour la recherche, à condition que les informations soient d'excellente qualité. Parce que sinon, on peut très vite tirer des conclusions erronées si les données ne sont pas fiables. Et puis, ce besoin d'information, il doit répondre à des enjeux qui sont une évolution très rapide des besoins de santé. Par exemple, si on prend l'évolution du nombre de patients qui sont pris en charge par l'équipe de Jean-Marc Tourani au CHU de Poitiers, eh bien, sur les 10 dernières années, le nombre de patients qui ont été pris en charge a augmenté de 46%. Un enjeu qui est colossal et qui nécessite de mobiliser des efforts importants. Et la connaissance, le suivi de ces données statistiques est essentiel pour ne pas se laisser déborder et pouvoir réagir autant que faire se peut. Par exemple, l'exemple de l'ouverture du pôle régional de cancérologie est une bonne illustration de ce fait. Et puis, là, je vous ai présenté des données sur des données qui sont issues des statistiques de mortalité. Mais c'est des données qui sont insuffisantes parce que, si vous voulez, les données de mortalité, ça traduit le devenir défavorable d'un cancer. Et heureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation où on s'intéresse plutôt à la détection précoce des cancers et à la guérison des cancers. Et donc, il faut s'intéresser beaucoup plus à des éléments qui vont permettre de connaître le démarrage, le début d'un cancer et son évolution. Et pour ça, les données de mortalité, même si elles sont très utiles, elles sont insuffisantes. Et puis parce que dans les données de mortalité, derrière les données de mortalité se cachent des paradoxes. Parce que si les cancers augmentent et prennent la première place dans les causes de mortalité aujourd'hui, c'est quand même d'abord à cause du vieillissement de la population. C'est parce que d'autres causes ont été mieux prises en charge, la mortalité cardiovasculaire a beaucoup réduit, et donc la part des cancers augmente. Ce qui fait que, avec le vieillissement de la population, le nombre de cancers augmente. Mais les progrès médicaux, les résultats qu'on obtient, le dépistage précoce, ça entraîne que le risque pour un individu pour lequel on a diagnostiqué un cancer d'en décéder a beaucoup diminué ces dernières années. Donc il faut faire attention, ces chiffres n'ont pas tous le même sens. Et des fois on voit des choses inquiétantes par la progression du nombre. Et puis quand on regarde plus finement, eh bien on voit que, au contraire, la situation a tendance à s'améliorer au niveau individuel. Donc on débouche sur la nécessité d'avoir des indicateurs qui sont de plus en plus fiables. C'est un point qu'a souligné le plan cancer. Et en particulier en région Poitou-Charentes, eh bien on a une région qui est peu favorisée de ce point de vue-là, parce qu'elle n'est pas couverte par un registre des cancers. Il n'y a que en France qu'une quinzaine de départements pour lesquels il y a des registres qui donnent un suivi complet de l'évolution des cancers. Donc cet objectif, il est maintenant en phase de démarrage. Les décisions ont été prises au niveau régional et ce registre se met en place. Il a été financé par l'Agence régionale de l'hospitalisation avec une collaboration très importante. Tous les partenaires impliqués ont donné leur accord. Ça repose beaucoup sur les médecins spécialistes d'anatomie pathologique parce que c'est eux qui posent le diagnostic précis de la tumeur, mais c'est également tous les médecins, les chirurgiens des établissements de santé de la région, voire même des établissements au-delà de la région, parce qu'ils peuvent prendre en charge, par exemple, les patients du sud des Charentes qui vont se faire soigner en Aquitaine. Eh bien, on va aussi les identifier et pouvoir apporter des informations beaucoup plus précises sur l'évolution des cancers au niveau de la région. Voilà, je présente cette jeune équipe du registre des cancers qui met en place ce travail très ambitieux. Voilà, je vous remercie.
Voilà, donc moi je vais vous parler du dépistage organisé donc des cancers. Bien, c'est parti tout seul. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de définitions qui sont très importantes. Et donc je vais passer quelques instants pour vous les rappeler ou pour vous les donner. Il y a d'abord ce qu'on appelle classiquement la prévention, et qui est la prévention primaire, c'est-à-dire ce sont les actes qui sont destinés à réduire l'apparition des nouveaux cas d'une maladie. C'est-à-dire que quand on fait de la prévention primaire, on s'adresse à une population qui est en bonne santé et on va lui donner des conseils sur son mode de vie, sur son hygiène pour éviter l'apparition des cancers. Monsieur Ingrand vous a parlé du cancer du poumon et du tabac. C'est l'exemple le plus classique. Si on veut lutter contre le cancer du poumon, il faut lutter contre le tabagisme et on fera disparaître 80% des cancers du poumon. Ça, c'est la prévention. Le stade suivant, c'est le dépistage. Donc, le dépistage, ça consiste à détecter une maladie à un stade le plus précoce possible, avant l'apparition de symptômes. On s'adresse là, donc, non plus à une population qui est saine, mais une population qui se croit saine, et chez laquelle on va essayer de trouver le cancer à un stade le plus précoce. Et pour ça, on va utiliser un test de dépistage, c'est-à-dire un test qui va permettre de détecter parmi des personnes qui, a priori, sont non malades, celles qui présentent des anomalies susceptibles d'être cancéreuses et qui vont nécessiter des examens complémentaires. Donc, on va s'adresser à une population générale, sans symptomatologie et sans risque. Si le test est négatif, le test de dépistage négatif, ça voudra dire que la personne est probablement indemne de la maladie. Si le test est positif, ça veut dire que la personne est possiblement malade. Donc j'insiste, probablement et possiblement. Et après, lorsqu'on aura fait le test, on va passer au stade de l'examen diagnostique. L'examen diagnostique, lui, qui va permettre de détecter parmi les personnes qui ont un test de dépistage positif, celles qui sont réellement atteintes de la maladie. Donc le test diagnostique, l'examen diagnostique, pardon, va s'adresser à une population qui était déjà ciblée par le test de dépistage. Alors, la justification de tout ça, c'est bien sûr faire une détection précoce des cancers pour permettre un meilleur traitement, une meilleure chance de guérison. C'est ce que M. Ingrand vous a montré tout à l'heure. Le nombre de cancers augmente, mais la mortalité par cancer, si on ne tient pas compte de l'âge et du vieillissement de la population, elle diminue parce que les cancers sont diagnostiqués de plus en plus tôt et donc ont un meilleur pronostic. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que le traitement est aussi moins lourd et qu'il y aura donc un meilleur confort pour le patient. Le traitement sera plus supportable si on détecte la maladie le plus tôt possible. Il y a actuellement deux types de dépistage. Il y a le dépistage organisé et le dépistage individuel. Alors, le dépistage individuel, c'est celui qui est laissé à l'initiative du patient et de son médecin traitant et qui, de ce fait, va laisser une partie de côté une partie de la population, celle qui n'ira pas voir son médecin traitant et donc qui ne sera pas touché par ce type de dépistage. Et par ailleurs, comme il est laissé à l'initiative individuelle, il ne peut pas permettre une démarche d'évaluation collective, puisqu'il n'y aura pas de recueil de l'information. Monsieur Ingrand vous a parlé tout à l'heure de l'importance du recueil de l'information actuellement. Et puis, il y a le dépistage organisé, donc celui dont je suis responsable dans le département de la Vienne, où on va inviter la totalité d'une tranche d'âge de la population. Donc, ça va impliquer un maximum de personnes. Il y aura un cahier des charges très précis et on va recueillir les données pour faire une évaluation de ce dépistage. Alors, mise en place d'un dépistage organisé, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de lourd et elle nécessite un certain nombre de conditions qui sont liées d'une part au cancer et d'autre part au test de dépistage qu'on va utiliser. Les conditions liées au cancer, je vous les ai résumées. Il faut que la maladie soit une maladie fréquente. Il faut qu'elle soit grave. Ça vous paraît évident, bien sûr. Et puis, ce qui n'est peut-être pas évident, et je pense que Bernard Gavid y reviendra tout à l'heure, il faut que le pronostic de la maladie soit amélioré par un traitement plus précoce. Le dépistage n'a d'intérêt que si on traite après et que si on est sûr que le traitement qu'on va faire améliore les conditions de vie ou de survie des patients. Et puis les conditions liées au test lui-même, il faut que ce soit un test efficace, bien sûr. Il faut qu'il soit bien accepté par la population et qu'il ne fasse pas courir de risques, puisque dans un dépistage organisé, on s'adresse à une population qui ne demande rien, on va lui lancer des invitations, on va l'inviter à faire un examen. Donc il faut que là, il n'y ait aucun risque pour elle. Et puis il faut que le coût économique soit acceptable pour la société. L'argent qu'on met là, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs, bien sûr. Il y a 5 cancers qui ont une fréquence importante et pour lesquels on pourrait envisager de faire du dépistage. Le cancer du poumon, on vous en a dit un mot, il ne ressort pas du dépistage, mais il ressort de la prévention primaire par la lutte contre le tabagisme. Il y a le cancer du col de l'utérus et puis le cancer de la prostate, et donc Dr Gavit vous en parlera tout à l'heure. Et puis il y a 2 cancers actuellement pour lesquels en France et dans le département de la Vienne, il y a un programme de dépistage organisé, c'est le cancer du sein et le cancer colorectal. Alors, quelques notions sur l'épidémiologie et sur le rôle du dépistage et du diagnostic précoce de ces deux maladies. Pour le cancer du sein, le taux de survie global à 5 ans, c'est-à-dire quand on prend l'ensemble des formes au moment où elles sont dépistées, est de 85%. Mais si on prend les formes à leur départ, lorsque la tumeur mesure moins de 10 mm, la survie à 5 ans, la même survie passe à 95%. Donc on améliore considérablement le pronostic. Et c'est encore plus net pour le cancer colorectal, puisque le taux de survie, toutes formes confondues, à 5 ans est de 57%, et il va passer à 94% si on détecte ce cancer au stade précoce. Alors, les grands principes de ces deux dépistages, ils sont organisés donc par une structure de gestion. Dans le département de la Vienne, elle s'appelle DOCVI et elle a la mission d'organiser administrativement le dépistage, d'établir le contact avec les médecins, d'établir le contact avec les patients. Ce dépistage, il fait appel aux dispositifs médicaux existants. On n'a pas créé de nouvelles structures médicales pour les traiter, ni l'un ni l'autre. Donc, les cabinets de radiologie existants, les laboratoires d'analyse médicale existantes et les médecins traitants. Ces dépistages y répondent à un cahier des charges national très précis. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire notre petite histoire dans notre coin. On doit suivre ce cahier des charges qui est initié par le niveau national, par le ministère, la Direction générale de la santé. Et puis, il y a un programme d'évaluation. On recueille toutes les données, on les recueille localement et puis on les fait remonter à Paris, au niveau de l'Institut de veille sanitaire qui va exploiter toutes ces données pour juger de l'efficacité du programme et essayer de l'améliorer lorsque c'est possible. Les invitations, donc c'est la structure de gestion qui va inviter les personnes. Pour le dépistage du sein comme pour le dépistage colorectal, c'est la tranche d'âge 50 à 74 ans qui est invitée et l'intervalle entre deux examens est de 2 ans. Alors l'invitation, je vous l'ai dit, elle est prise en charge par la structure de gestion, mais il peut y avoir une demande d'intégration dans ce dépistage par le médecin traitant, par le patient lui-même ou par le radiologue. Lorsque le patient ne répond pas à l'invitation, il est relancé au bout de 6 mois. Il y a un certain nombre d'exclusions dans ces deux campagnes. Lorsque les personnes présentent des symptômes, lorsqu'elles ont des facteurs de risque personnels ou familial, à ce moment-là, elles relèvent non plus d'un dépistage organisé, mais d'un suivi par leur médecin traitant qui décidera des examens qu'il faut faire, de la fréquence de ces examens. Et puis les gens qui ont eu un examen récent, ben évidemment, ils sont hors cadre du dépistage. On ne va pas recommencer une mammographie 3 mois après chez une femme qui venait d'en avoir une. Les acteurs, ben bien sûr, ce sont les patients en premier lieu. Pour le sein, les radiologues, et pour le colorectal, c'est le médecin généraliste. Alors, le test pour le cancer du sein, c'est la mammographie. Donc, vous savez, c'est une radio des seins qui est faite par le radiologue. C'est la même radiographie que celle que l'on fait dans le cadre du diagnostic ou dans le cadre du dépistage individuel. Et puis, pour le cancer colorectal, c'est une recherche de sang dans les selles qui se fait par un test qu'on appelle l'hémoculte. C'est un test qui est distribué par le médecin traitant. Pour le cancer du sein, la femme est invitée à aller voir le radiologue qui va lui faire la mammographie. Pour le cancer colorectal, l'homme ou la femme sont invités à aller voir leur médecin traitant qui va leur distribuer le test, leur expliquer un peu les enjeux de ce dépistage. Et lorsque le test est positif, c'est-à-dire lorsque on trouve du sang dans les selles, à ce moment-là, le médecin traitant doit adresser le patient au gastro-entérologue qui va faire une coloscopie, c'est-à-dire un examen complet de l'intestin. Alors, quelques résultats. La campagne de dépistage organisée du cancer du sein dans la Vienne a débuté en 2003. Donc, on a 6 ans d'ancienneté maintenant, 6 ans d'activité. Et on a fait, dans le cadre de cette campagne, 73 000 mammographies. On a découvert, dans le cadre de cette campagne, toujours 400 cancers, ce qui fait un taux de 5,5 pour 1000. Ce sont les taux qui sont attendus au niveau national. C'est-à-dire, lorsqu'on fait 1000 mammographies, ou une mammographie à 1000 femmes, on va trouver 5 à 6 cancers. C'est les taux normaux de ce type de campagne. Dans la Vienne, on est au niveau attendu. Pour le dépistage colorectal, donc on a un recul qui est insuffisant. On a démarré au mois de septembre-octobre. Donc je ne peux pas vous donner des chiffres locaux. Simplement, ce que je peux vous donner, ce sont des chiffres généraux. L'hémoculte, la recherche de sang dans les selles, est positive normalement dans 2 à 3% des cas. Et lorsque l'hémoculte est positif, lorsqu'il y a du sang dans les selles, le médecin traitant va envoyer son patient au gastro-entérologue qui devrait faire une coloscopie normalement dans 100% des cas, ou disons 95 ou 99% des cas. Et lorsqu'il va faire cette coloscopie, dans 10% des cas, il va trouver un cancer. Dans 30% des cas environ, on va trouver ce qu'on appelle des polypes, c'est-à-dire des espèces de grosses verrues qui sont susceptibles de dégénérer en cancer et qu'on va enlever. Et dans 60% des cas, la coloscopie sera normale. Hein. Donc là, on retombe sur ce que je vous avais dit au début, le possiblement ou probablement. Hein. Ce n'est pas parce que l'hémoculte est positif qu'il y a quelque chose, obligatoirement. Hein. Mais lorsque l'hémoculte est positive, ça implique qu'on aille plus loin pour savoir d'où vient ce sang, d'où viennent ces traces de sang. En pratique, ça veut dire que lorsqu'on va faire 1000 tests, on va détecter 2 cancers et puis 3 à 4 gros polypes. Voilà. Donc, au niveau national, il est souhaité pour l'efficacité de la campagne qu'on ait un taux de participation pour le dépistage organisé du cancer du sein qui soit de 70%. Sur l'année 2008, dans le département, on a eu un taux de participation qui est à 58%, donc on est encore loin des 70% attendus. Au niveau national, le taux de participation pour 2008 est de 52%. Donc dans la Vienne, on est plutôt bon par rapport au niveau national, mais on n'est pas encore là où on nous demanderait d'être. Il faut savoir quand même que actuellement le dépistage organisé est, entre guillemets, concurrencé encore par un dépistage individuel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui passent en dehors de notre système, qui vont directement chez le radiologue, et que notre souhait, c'est que ces femmes puissent rentrer dans le dépistage organisé du cancer du sein. Ça augmenterait nos chiffres. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, alors, pour le dépistage du cancer colorectal, au niveau national, on nous demande d'atteindre un objectif de 50%. L'objectif fixé était plus bas que pour le dépistage du cancer du sein, parce que la mammographie était quand même quelque chose qui était déjà rentré dans les mœurs depuis longtemps, donc on pouvait espérer plus facilement avoir un important taux de participation. L'hémoculte, les gens ne sont pas encore bien familiarisés, et donc on nous demande d'avoir un taux de participation de 50%. Dans les autres départements Poitou-Charentes qui sont partis avant nous, ils sont en Charente en particulier, ils sont entre 30 et 35%, donc ils sont loin des 50% espérés, alors qu'ils ont démarré leur campagne il y a déjà 4 ou 5 ans. Nous, ce que je peux vous dire, c'est que dans la Vienne, ça démarre assez bien. On a pas mal d'assez bons résultats, semble-t-il, et on espère être pas loin des 40% sur notre première année. Voilà, brièvement. Je vous remercie. Escape. Par où on escape là ?
Escape. Elle a une petite manipulation. Voilà, là, là, là. Alors. Bien, donc je vais vous parler du dépistage des cancers en médecine générale. Le dépistage des cancers est de manière générale un véritable enjeu de santé des populations pour lesquelles le généraliste a pleinement sa place, aussi bien dans le dépistage organisé qu'individuel, on va le voir. Tout d'abord, un petit rappel, les hommes politiques et les organismes sociaux ont récemment introduit le concept du médecin traitant. Le médecin traitant, en fait, c'est retourner aux fondamentaux de la médecine générale. C'est la prise en charge de la globalité de la santé des patients dans leur contexte de vie. Et en particulier, deux missions essentielles, assurer la coordination des soins. C'est le parcours de soins. C'est pour ça que vous êtes forcé de passer normalement par le médecin généraliste pour aller voir d'autres spécialistes. Et c'est aussi le suivi, en particulier la tenue du dossier médical, aussi bien au niveau du cabinet que bientôt dans le dossier médical personnel qui sera informatisé et national. Un constat en médecine générale, heureusement, les pathologies aiguës diminuent. Elles diminuent, mais par contre, nous avons une activité beaucoup plus importante dans la prise en charge des pathologies chroniques, diabète, hypertension, etc., et aussi dans la prévention et enfin dans les dépistages, dont les dépistages des cancers. Comme a dit Dominique Coste à l'instant, il y a deux sortes de dépistage, organisé et individuel. Le médecin généraliste a sa place dans ces deux types de dépistage. Dans le cancer du sein, bien sûr, les patientes vont souvent voir directement le radiologue, mais notre rôle est quand même de demander aux patientes si elles ont bien fait leur dépistage, pourquoi elles ne l'ont pas fait, etc. Donc de faire un dialogue avec elles pour les inciter à aller au dépistage organisé. La place du généraliste dans le dépistage du cancer colorectal est plus importante, car en effet, c'est nous qui distribuons les tests, les hémocultes. Donc nous avons pleinement notre place dans ce dépistage organisé. Il nous reste des dépistages individuels, c'est-à-dire que c'est les dépistages que l'on fait au fil de l'eau quand les patientes ou les patients nous rencontrent. Je vais vous parler ce soir de deux dépistages individuels, le dépistage du cancer du col de l'utérus et enfin le cancer de la prostate. Deux dépistages qui sont fort différents, vous allez voir. D'abord, plaçons un petit peu le cadre, le cancer du col de l'utérus, c'est le 10e cancer chez la femme, en incidence, c'est-à-dire en nouveau cas, et avec généralement une fréquence autour de 40 ans. C'est en taux de mortalité le 15e rang des décès par cancer, avec un pic à 50 ans environ. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'entre les femmes qui sont nées en 1910 et 1950, le risque a diminué 6 fois. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait remarquable. Alors, comment s'effectue le dépistage du cancer du col? Je pense que vous savez tous qu'il est fondé essentiellement sur le frottis cervico-utérin. Ce frottis est un geste simple, rapide, peut-être désagréable, mais non douloureux directement, et non dangereux. C'est un geste qu'il faut faire à toutes les femmes, et j'insiste bien à toutes les femmes, entre 25 et 65 ans. La fréquence qui est recommandée, c'est les deux premiers frottis à 1 an d'intervalle, et s'ils sont tous les deux normaux, c'est tous les trois ans. Sauf, on pourrait y revenir dans la discussion, pour des femmes qui sont à risque majoré, mais pour les femmes sans risque majoré, c'est tous les 3 ans. Des chiffres un petit peu, pour faire concurrence à Pierre Ingrand, voici le taux de couverture par le frottis suivant les tranches d'âge. C'est quelque chose qui est un peu déclaratif, parce que comme le dépistage n'est pas organisé, on a des chiffres qui sont un petit peu fluctuants. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que grosso modo, ça fluctue autour, pour une certaine source, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, autour de 60%, pour le baromètre santé, autour de 80%. Ça pourrait sembler tout à fait intéressant et suffisant. En fait, il faut bien interpréter ces courbes. Dans ces courbes, beaucoup de femmes sont surdépistées, alors que d'autres ne le sont pas. Et c'est justement celles qui ne le sont pas qui sont à risque. Donc en fait, ces courbes sont un petit peu trompeuses. Il faut absolument qu'on augmente le taux de participation au frottis des femmes. Il y a eu en France des expériences de dépistage organisé. 4 départements l'ont fait sur des procédures qui sont différentes, donc on peut mal comparer. Mais grosso modo, ce dépistage qui est organisé dans ces départements montre qu'il y aura une meilleure couverture des femmes de plus de 50 ans, qu'il y a une meilleure qualité des prélèvements et des lectures des frottis, et une importance plus importante qu'on le pensait des lésions précancéreuses du col. Et en Martinique, il y a un contexte particulier, mais ça, je pense que ce n'est pas d'actualité ici ce soir. Alors, la plupart des cancers du col de l'utérus sont secondaires à ce qu'on appelle une infection à papillomavirus humain, qu'on abrège en HPV. Le HPV est une infection sexuellement transmissible et grosso modo, 8 femmes sur 10 ont eu un HPV, une infection par HPV, durant leur vie. Et cette fréquence, cette infection, est surtout fréquente dès les premiers rapports sexuels, entre 15 ans et 24 ans, avec un risque maximum dans les 5 ans qui suivent les premiers rapports sexuels. Rassurez-vous, la plupart de ces infections, et fort heureusement, guérissent de manière spontanée en 1 à 2 ans. et le virus ne reste que dans chez une femme sur 10 environ. Par contre, environ 80% des cancers du col de l'utérus sont secondaires à une infection à HPV. Il faut dire aussi que, fort heureusement, la nature est bien faite, de nombreuses lésions précancéreuses, car c'est ce que détecte généralement le frottis cervico-utérin, régressent spontanément. Et qu'il faut, grosso modo, entre 5 et 10 ans pour passer d'une lésion précancéreuse à un véritable cancer. Ce qui nous laisse quand même du temps pour faire des frottis. C'est du reste pour ça qu'on le fait tous les 3 ans seulement, ce qui veut dire que dans les 10 ans, on pourra faire 4 frottis à la fin. D'accord ? Voilà l'évolution de l'infection par HPV. Vous voyez qu'elle est extrêmement importante dans les tranches d'âge les inférieures et que, grosso modo, vers 55-69 ans, presque plus de femmes sont porteuses du virus HPV. C'est l'évolution spontanée puisqu'il n'y a pas de traitement. Par contre, s'il n'y a pas de traitement, nous avons depuis quelques mois une vaccination. Cette vaccination, c'est 3 injections. On préconise de la faire précocement, vers 14 ans. Pourquoi ? Parce que c'est avant les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels, théoriquement. Et donc, on évitera à la jeune fille de développer une infection à HPV. Si on ne peut pas la faire à 14 ans, il est conseillé de la faire entre 15 ans et 23 ans, généralement dès les premiers rapports sexuels. Et cette vaccination éviterait, je me dis bien éviterait, parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir, 70% des cancers du col de l'utérus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vaccination protège peut-être pour le HPV, mais ne protège pas pour les autres infections sexuellement transmissibles. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que les jeunes en particulier ne modifient pas leur façon de faire. Il faut toujours user du préservatif. Et aussi, il faut faire le dépistage habituel par les frottis. Le HPV n'empêche pas la prévention, c'est clair. Le HPV, la vaccination HPV est un plus, mais ce n'est qu'un plus. Par contre, cette vaccination pose quelques questions. Est-ce que, en vaccinant, nous n'allons pas avoir une mutation au niveau des virus et que d'autres virus deviennent ce qu'on appelle oncogènes, cancérigènes, parmi les HPV, parce qu'il y a beaucoup de types. Est-ce que ça serait efficace, par exemple, de vacciner l'homme, puisque finalement, l'homme et la femme sont affectés par le HPV ? Aucune étude ne le dit aujourd'hui. Nous n'avons pas de recul non plus sur l'utilisation chez la femme enceinte, ce qui est ennuyeux. Et surtout, pour le moment, la durée de l'immunité est garantie par les laboratoires fabricants pour 5 ans seulement. Peut-être qu'elle sera pour plus longtemps, mais pour le moment, nous n'avons pas le recul suffisant pour savoir. Ce qui veut dire, si on reprend le schéma de tout à l'heure, que la vaccination, si vraiment elle ne dure que 5 ans, nous allons avoir un déplacement de cette courbe sur la droite, mais nous aurons quand même des infections à HPV et donc des possibilités de développement de cancer du col de l'utérus. Ce que l'on peut augurer, c'est qu'en fait, ce déplacement fasse qu'il soit moins important, voire nul. Mais ça, c'est au fil de l'eau que nous verrons les résultats de la vaccination par HPV. En résumé, la vaccination HPV, par rapport à ce que vous avez dit Dominique Coste tout à l'heure, est une prévention primaire. Ça veut dire qu'elle évite l'apparition des lésions précancéreuses. Le frottis, lui, est une prévention secondaire. C'est-à-dire qu'il détecte les lésions précancéreuses, parfois malheureusement cancéreuses, mais généralement précancéreuses. Et seule la biopsie que fait le gynécologue fait le diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait carrément un prélèvement qu'on fait analyser pour vraiment faire le diagnostic. Donc prévention primaire, prévention secondaire et diagnostic sont des choses totalement différentes. Après avoir abordé le col, nous allons essayer d'aborder le cancer de la prostate, qui pose beaucoup plus de problèmes que le dépistage du col de l'utérus. Le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme de plus de 50 ans. Il augmente avec l'âge et il augmente au fil des ans. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'espérance de vie qui augmente, heureusement, fait que de plus en plus de gens sont porteurs de cancer et en particulier le cancer de la prostate. Il y a des populations qu'on appelle un risque accru, c'est-à-dire que c'est des populations où il y a des cancers de la prostate familiaux. Et c'est aussi certains facteurs raciaux. Les Africains et les Antillais ont plus de chances de développer, ou de malchance tout au moins, de développer un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est quand même la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Heureusement, elle diminue actuellement d'environ 7% par an. Et en 2006, le taux de survie globale était estimé à 77% à 5 ans. Le dépistage du cancer de la prostate se fait, comme on dit en jargon médical, en deux outils, avec deux outils, deux tests en fait, le toucher rectal et le dosage du PSA. Dosage du PSA total. Il faut absolument, pour faire le dépistage, faire ces deux tests. L'un va avec l'autre. On ne peut pas se fonder seulement sur le dosage du PSA. Actuellement en France, la valeur seuil du PSA est fixée à 4 nanogrammes par millilitre. Il faudrait faire le dépistage du cancer de la prostate tous les ans, à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans. C'est ce que nous dit les urologues. Sauf pour des hommes à risque, on pourrait débuter à 45 ans. Hommes à risque, c'est les cancers familiaux de la prostate, africains et antillais. Par contre, si on trouve un taux de PSA très bas, inférieur à 2, on peut se refaire le PSA qu'au bout de 2 ans, voire 3 ans. Mais ce PSA, qu'on pensait être un test intéressant, puisque c'était un des premiers cancers qu'on pouvait dépister par une prise de sang, a des limites. A des limites en dépistage, pas forcément une fois que les patients sont traités pour un cancer de la prostate. Pourquoi ce PSA a des limites en dépistage ? Eh bien parce qu'il a ce qu'on appelle une mauvaise sensibilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut parfaitement être porteur d'un cancer de la prostate avec un taux de PSA bas. Et environ un homme sur dix, par exemple, qui ont un cancer peuvent avoir un PSA inférieur à 4. Et donc, cette mauvaise sensibilité donne une fausse réassurance aux patients et aux médecins aussi, du reste. Ce PSA a aussi une mauvaise spécificité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le PSA n'est pas spécifique du cancer, il est spécifique de la prostate et il peut très bien augmenter lorsqu'il y a un gros adénome de la prostate, ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate, ou une prostatite. Et si on trouve un taux de PSA supérieur à 4, seulement 3 hommes sur 10 ont un cancer. Les 7 autres n'en ont pas. Nous arrivons donc à un surdiagnostic. Donc voici les deux limites du PSA en dépistage. Le dépistage lui-même a des limites. En effet, les cancers de la prostate ont une évolution ou une agressivité qui est tout à fait diverse. Il faut parfois attendre plus de 10 ans entre le début d'un cancer de la prostate et les premières complications. Et certains d'entre eux ne se compliqueront jamais. Parallèlement à ça, tous les traitements que l'on peut proposer aujourd'hui altèrent obligatoirement la qualité de vie par les effets secondaires. Effets secondaires urinaires, sexuels ou digestifs. Il y a très peu, malheureusement, de patients qui sont traités pour cancer de la prostate qui n'ont pas un petit inconvénient. Ce sont donc les deux limites du dépistage du cancer de la prostate. Récemment, une étude européenne qui est toute récente, puisqu'elle est du mois de mars 2009, nous a dit que si on suivait 1000 hommes âgés de 55 à 69 ans pendant 9 ans, eh bien sans dépistage, 4 mourraient de leur cancer de la prostate, et avec dépistage, 3 mourraient de leur cancer de la prostate. Gain de l'opération, 1 patient seulement sur les 1000. Ce qui veut dire que sur ces 1000 hommes, 150 présenteront des PSA élevés. 30 auront un cancer qui sera traité. 20 seront impuissants. 15 auront des troubles urinaires. 2 seront totalement incontinents. et un seul patient ne mourra pas de ce cancer alors qu'il serait mort en l'absence de dépistage. Vous comprenez donc que nous sommes, en tant que médecins, extrêmement gênés pour proposer ce dépistage d'une manière systématique. Et je pense qu'il faut absolument, pour ce dépistage, que le médecin prescripteur discute avec son patient, lui explique le pour et le contre, de façon à ce que celui-ci prenne une décision éclairée. En effet, la valeur prédictive, c'est-à-dire la chance que le taux de PSA ne déclare pas forcément le cancer, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une autre affection, par exemple un adénome ou une prostatite. Inversement, le taux bas peut quand même, l'homme peut être quand même porteur d'un cancer. Par ailleurs, on peut générer une anxiété relativement importante parce qu'on va dire à quelqu'un, vous avez un taux de PSA élevé, mais on va rien faire du tout. On risque aussi de multiplier les examens inutiles, ce qui est toujours embêtant. On va parfois mettre des traitements qui sont injustifiés, ce qu'on appelle les surtraitements. Et enfin, il y a les effets secondaires notables de ces traitements. Je pense que tout ça, tous ces éléments, doivent être discutés avec le patient avant de prescrire, enfin, avant de faire un dépistage du cancer de la prostate. En résumé, pour le cancer de la prostate, le toucher rectal et le taux de PSA font ou feraient le dépistage. La biopsie, c'est-à-dire aller chercher avec des petites sondes au niveau de la prostate, sous anesthésie quand même, des éléments pour les analyser au point de vue sous le microscope, ça fait le diagnostic. Et quelque chose de plus médical, le score de Gleason donne l'agressivité, le score de gravité du cancer de la prostate. Voilà ce que je voulais dire pour ces cancers, on pourra en parler tout à l'heure. Je vous ai listé des sites internet bien documentés sur les différents dépistages des cancers et sur aussi les informations sur les cancers en général.
Si vous n'avez pas le temps de les noter tout de suite, on pourra la remettre tout à l'heure pour que vous preniez note. Hein ?
Bien. En fait, il ne faut jamais passer le dernier parce qu'ils ont pris tout le temps. Bien. Donc, on vous a rapporté beaucoup d'éléments pour vous dire que la première chose à faire dans notre vie, pour éviter d'aller voir ce que je vais vous montrer, c'est de participer à la prévention. Il y a aussi de la prévention, le tabac et d'autres choses. Et participer, répondre favorablement au courrier que vous recevrez si vous êtes concerné par les tranches d'âge pour le cancer colorectal et le cancer du sein. Mais malgré tout, on vous a aussi dit que ça permettait de guérir davantage de gens en diagnostiquant des tumeurs petites, mais ça ne guérit pas tous les cancers. Et donc, il a fallu, au niveau régional, avec l'impulsion de l'Institut national du cancer, puisque l'Institut national du cancer demande qu'à chaque région s'équipe d'un pôle régional de cancérologie pour avoir un outil performant pour prendre en charge tous les patients de la région qui nécessitent des soins particuliers. Cela ne veut pas dire que dans les autres départements de notre région et dans d'autres villes de notre région, il n'y a pas des centres capables de prendre les patients porteurs d'un cancer. Si, ils y sont, mais le plus de ce pôle régional de cancérologie, c'est de faire ce qu'on appelle du recours, c'est-à-dire de mettre à la disposition des patients de notre région des traitements qui ne sont pas faits et qui ne peuvent pas être faits pour des raisons soit financières ou pour des raisons de fréquence dans les autres établissements de santé de notre région. Alors ce pôle régional de cancérologie, eh bien, il a ouvert ses portes aux premiers patients il y a moins d'un mois, puisque c'était le 23 mars de cette année. Alors, un petit rappel, 13 000 m2. Un très beau plateau de radiothérapie avec 4 accélérateurs. Les accélérateurs, ce sont des machines qui délivrent un rayonnement par photon ou électron, de l'extérieur vers l'intérieur du malade, ce qu'on appelle la radiothérapie externe, utilisée dans la majorité des cancers. Il y a aussi un bunker, qui est une pièce protégée, blindée, pour réaliser ce qu'on appelle la curithérapie au débit en particulier. Et la curithérapie consiste cette fois-ci à irradier de l'intérieur de la tumeur vers l'extérieur de la tumeur à l'aide soit de grains radioactifs que l'on place dans la tumeur, soit à l'aide de fils radioactifs que l'on place là encore dans la tumeur ou dans le lit tumoral qui a été préparé par le chirurgien qui a enlevé la tumeur. On a une pharmacie aussi dédiée à ce pôle avec un automate qui reconstitue les chimiothérapies de façon à garantir la protection du personnel et surtout garantir aux patients qu'ils reçoivent la dose exacte de traitement. C'est le premier automate en France. Il y en a sinon deux autres en Europe, un en Angleterre et un en Italie. Et puis aussi, pour aller vite, eh bien, on a une distribution de ces produits par un système de pneumatique, c'est-à-dire que toutes les structures de soins reçoivent par pneumatique la reconstitution et le traitement à délivrer. L'automate est capable de reconstituer une préparation toutes les 3 minutes. Un plateau de consultation qui est énorme, 22 box de consultation, et on va voir pourquoi ce plateau de consultation est énorme. C'est une particularité du mode de fonctionnement de ce pôle. En termes d'hospitalisation, eh bien, on a un secteur d'hospitalisation de jour qui peut accueillir jusqu'à 80, voire 100 patients quand il sera ouvert en totalité par jour. Un secteur d'hospitalisation de semaine qui a augmenté, il était de 22 places jusqu'à présent, maintenant il est de 26 lits. Un secteur d'hospitalisation complète d'oncologie médicale qui n'existait pas jusqu'à présent et qui a été ouvert là à 18 lits, mais en septembre il ouvrira à 30 lits. Un secteur d'hématologie pour 8 lits protégés pour faire réaliser les greffes de moelle et 16 lits non protégés. Puis un secteur de thérapie physique pour tout ce qui est traitement radioactif, comme l'iode radioactif dans les cancers de la thyroïde. Donc ici, vous avez un plan de ce pôle régional de cancérologie avec ici l'entrée du bâtiment. Sur la droite, quand on rentre, l'ensemble du plateau de radiothérapie avec les blocos qui renferment les accélérateurs. De l'autre côté, ici, l'accueil, la pharmacie avec l'automate. Dans cette partie-là, il y a un espace dédié aux associations. On va revoir aussi ici qu'il y a un espace rencontre information et il y a aussi un local dédié pour notre socio-esthéticienne dont on parlera tout à l'heure. À l'étage du dessus, l'hospitalisation de jour. Les patients viennent le matin, repartent le midi, ou viennent le midi, repartent l'après-midi, ou viennent le matin, repartent le soir. Ils ne dorment jamais dans ce secteur-là. Il est composé de chambres seules, il est composé de fauteuils, d'espaces de méridiennes qui sont comme des lits, mais complètement articulés. Un plateau de consultation que je vous ai dit. Au-dessus, un secteur d'hospitalisation complète d'hématologie. Le secteur de thérapie physique pour les produits radioactifs que l'on administre aux patients. Le secteur protégé d'hématologie. Et au-dessus, le secteur d'hospitalisation de semaine, ouvert du lundi au vendredi soir, fermé le week-end, et le secteur en bleu foncé, qui est le tertiaire, c'est-à-dire l'ensemble des bureaux et la structure de recherche clinique de ce pôle de cancérologie. Alors, je vous ai dit qu'on a un énorme plateau de consultation avec une particularité, c'est que sur ce plateau de consultation, on va regrouper toutes les spécialités d'organes en plus des cancérologues. Donc, on va retrouver les consultations d'oncologie médicale, de radiothérapie, d'hématologie. On vous a dit que la population était de plus en plus vieillissante et que beaucoup de gens âgés avaient des cancers au-delà de 75 ans. Il faut les prendre en charge. Parfois, ces patients sont fragiles et donc il y a une spécialité qui s'est développée, c'est l'oncogériatrie, c'est-à-dire qu'on a des gériatres qui, au-delà de 75 ans, évaluent nos patients pour savoir s'ils sont aptes à recevoir le même traitement que quelqu'un qui a 40 ans ou si on doit adapter le traitement à son âge, enfin pas tellement à son âge, mais à son état physique et aux pathologies qu'il a accumulées depuis des années. On va aussi accueillir des médecins qui réalisent ce qu'on appelle l'oncogénétique, c'est-à-dire que quand on a un doute sur un caractère familial d'un cancer, on a un spécialiste qui est là, qui consulte et qui voit même les familles, qui fait des prélèvements sanguins pour savoir s'il y a des anomalies génétiques qui sont transmissibles de parents à enfants. On a aussi les spécialistes d'organes, puisque les gynécologues vont venir consulter là pour surveiller leurs patients qu'ils ont opérés d'un cancer, de même pour les pneumologues, de même pour les ORL, la dermato, la gastro-entérologie et la chirurgie viscérale. Dans ce pôle de cancérologie, on a beaucoup insisté aussi sur les soins de support et l'information des patients et des familles. Ce pôle est ouvert aux associations, puisque je vous ai dit qu'il y a des bureaux dédiés, des salles dédiées à ces associations. On a un espace rencontre-information. Un espace rencontre-information, c'est un terme qui est labellisé par la Ligue contre le cancer. Dans la salle, nous avons Sylvie Aubert, que j'ai souhaité inviter, parce que si vous avez des questions à poser sur à quoi sert cet espace rencontre-information, elle pourra y répondre parfaitement. Nous avons mis des bornes informatiques dans le PRC, où patients et familles peuvent trouver toute information concernant les cancers, peuvent aller sur des sites de l'INCa, sur les sites de la Ligue contre le cancer. On a insisté aussi sur la prise en charge globale avec une socio-esthéticienne qui est aussi dans la salle, Corinne Autexier, qui pourra répondre à vos questions. À quoi sert une socio-esthéticienne quand on est patient avec un cancer? On a bien sûr des psychologues, des diététiciennes, kinésithérapeutes et puis des assistantes sociales, de façon à pouvoir répondre à toutes les demandes et à tous les besoins de nos patients. On a insisté sur l'ouverture de ce pôle vers les médecins généralistes et vers la maison des patients. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle une coordination pôle de cancérologie et ville, c'est-à-dire que cette structure, qui est une structure virtuelle constituée d'un cadre de santé et d'un médecin, doit s'assurer, si on veut que les patients restent à domicile avec leur maladie, doit assurer une sortie bien programmée et bien organisée. C'est ce qu'on appelle les sorties complexes, et une sortie complexe réussie est garante d'un maintien à domicile. Cette coordination ville-hôpital doit aussi assurer la coordination avec le médecin traitant, avec les infirmières libérales ou avec les autres structures, prestataires de services, hospitalisation à domicile, pour surveiller et aider le maintien à domicile et donner des conseils sur les soins à prodiguer à domicile. Et puis, cette coordination a aussi comme rôle d'essayer d'éviter, sur les heures ouvrées et les jours ouvrés, que nos patients, quand leur retour à l'hôpital n'est pas programmé pour une complication, éviter qu'ils passent par les urgences de l'hôpital avec des temps d'attente très longs. Et donc, on a deux lits en hôpital de jour qui sont dédiés à recevoir ces patients, sur appel du médecin traitant. Il n'est pas question qu'on se substitue aux urgences de l'hôpital. Le patient n'a pas à décider, je vais à l'hôpital. Non, c'est son médecin traitant qui nous téléphone en disant, voilà, je ne m'en sors plus. Est-ce que vous pouvez le reprendre? Donc, on a deux lits dédiés pour ça. Sur quoi s'appuie cette coordination? Eh bien, sur une infirmière coordinatrice, un interne, les médecins de ville, bien sûr, les infirmières libérales, les hospitalisations à domicile, et puis, bien sûr, les établissements de santé proches du domicile du patient, parce qu'il ne faut pas oublier que ces établissements de santé ont aussi une mission de soins dans le cancer. En dehors des soins, eh bien, on est universitaire, donc on se doit de faire de la recherche. Donc, on fait de la recherche fondamentale en collaboration avec les autres laboratoires du CHU, l'université, et puis le Cancéropôle Grand Ouest, qui regroupe la région Bretagne, la région Centre, Pays de Loire, et donc la région Poitou-Charentes. Recherche clinique, je vous ai dit qu'il y avait tout en haut de ce bâtiment une structure de recherche clinique qui permet de mettre à disposition des patients des programmes de recherche avec des molécules qui ne sont pas encore commercialisées et qui sont encore en développement. C'est-à-dire qu'on évalue le bénéfice des molécules chez des patients qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas recevoir les traitements conventionnels ou ont déjà épuisé l'ensemble des traitements conventionnels dans le cadre de leur maladie. On a aussi un rôle de formation, des étudiants en médecine et de pharmacie, bien sûr. Formation médicale continue des médecins généralistes. On est les premiers en France à avoir mis en place un diplôme universitaire de cancérologie, non pas pour les médecins, mais pour les soignants, parce qu'il nous paraît indispensable d'avoir dans ce pôle de cancérologie un personnel rompu parfaitement à la prise en charge du cancer. Pour se résumer, ce pôle de cancérologie, eh bien, il doit assurer, et il assure déjà, une prise en charge globale des patients. Il est garant de ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. À l'heure actuelle, il n'est plus question de prendre en charge tout seul dans son coin un patient qui a un cancer. On a obligation de discuter tous les patients, tous les nouveaux patients, pour mettre en place des stratégies de traitement avec nos collègues, qu'il s'agisse de chirurgiens, qu'il s'agisse de radiothérapeutes, qu'il s'agisse de spécialistes d'organes. Lien et coordination avec les spécialités médicales par le biais des consultations, puisque les spécialistes viennent sur le pôle de cancérologie. L'ouverture sur la ville avec la coordination ville-hôpital, enseignement, formation à l'échelon régional, c'est notre rôle. Le recours, je vous en ai parlé, c'est-à-dire des techniques qui ne peuvent pas être faites n'importe où pour des raisons de prix, pour des raisons de fréquence. La recherche clinique qui permet de mettre à disposition des patients des nouvelles molécules. La recherche fondamentale pour essayer de mieux comprendre le cancer. Et puis tout ce qui est innovation thérapeutique, le pôle se doit de mettre tout ça à la disposition des patients. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Bien, c'est maintenant qu'on ouvre le débat. Donc, il y a des micros qui circulent dans la salle. N'hésitez pas, je suppose qu'il y a des questions nombreuses. Je vais peut-être commencer à en poser une. Et puisque vous parliez, M. Torani, on va juste continuer là-dessus. Vous nous avez dressé le listing pour expliquer... présenter le pôle de cancérologie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il apporte par rapport au service d'avant, c'est-à-dire ce qu'il va y avoir vraiment comme nouveauté et comme service qui n'était pas possible aux patients avant ? Vous avez parlé de certaines machines notamment, ou certains les accélérateurs. Est-ce que ce sont des choses qui n'existaient pas avant, qu'on n'avait pas à Poitiers ? Est-ce que en quoi ce pôle de cancérologie est exemplaire pour la région Poitou-Charentes ?
Alors, tout d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que avant ce pôle, les patients étaient tout de même bien pris en charge. Il faut être clair. Ce pôle a apporté quoi ? Il nous a permis de prendre de l'avance. On est en avance sur les autres régions. On est en avance sur les autres régions dans plusieurs domaines. Le premier domaine, qui est un domaine purement humain, c'est d'avoir réussi à regrouper en un seul lieu tous les spécialistes qui gravitent autour du cancer, aussi bien les cancérologues que les non-cancérologues. On a besoin de pneumologues, on a besoin de dermatologues, on a besoin de chirurgiens pour discuter avec eux de la façon dont on doit prendre en charge les patients. Quand vous êtes séparés de 600, 800 mètres, de 10 étages, ce n'est pas facile. Là, c'est beaucoup plus facile, on est tous sur place. On est tous sur place et donc on a toute l'opportunité pour développer encore plus la pluridisciplinarité. On ne peut plus parler autrement que dans le cadre de pluridisciplinarité. Il faut savoir que tout nouveau patient qui arrive dans un service de cancérologie, la première chose qu'il doit être faite, c'est que son dossier doit être discuté en ce qu'on appelle réunion de concertation pluridisciplinaire, de façon à ce que l'on mette en place une stratégie de traitement. Cette stratégie de traitement est décidée de façon pluridisciplinaire et on remet au patient, lorsqu'on le revoit pour lui expliquer son traitement, un programme personnalisé de soins. Il n'est pas concevable de prendre en charge actuellement des patients autrement que comme cela. Ça nous est imposé par l'Institut national du cancer. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les malades sont mieux pris en charge. Donc ça, c'est la première chose, c'est le regroupement de toutes les compétences médicales dans un seul lieu. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup insisté, je vous l'ai dit, sur non seulement la technologie, on va y revenir après, mais sur ce qu'il y a en plus autour du patient pour améliorer cette période de sa vie. Améliorer cette période de sa vie, c'est-à-dire lui faciliter la vie à un moment qui est difficile. Donc, on a psychologue, diététicienne, assistante sociale. Et puis, comme je vous ai dit, les patients courent après les informations. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avoir des informations. Eh bien, dans le PRC, l'espace rencontre information est fait pour ça. Les gens, à n'importe quelle heure de la journée, peuvent venir s'informer. Les patients, les familles ou d'autres personnes, voilà. J'ai ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres patients qui l'ont ? Est-ce qu'il y a des associations de malades qui peuvent m'aider ? Est-ce que vous pouvez me conseiller sur ça ou sur ça ? Eh bien, Sylvie Aubert, qui est là, répond à toutes ces demandes via des documents, via l'informatique, via un tas de choses. La socio-esthéticienne aussi, c'est un plus. C'est un plus que les patients, et je ne dis pas que les patientes, il y a les patients aussi, trouvent très agréable et améliorent la prise en charge. Ça leur améliore la prise en charge d'avoir accès à des soins corporels pendant leur traitement, et puis aussi des conseils sur le problème des cheveux, le conseil sur les problèmes des ongles, sur les problèmes de peau, parce qu'il faut savoir que nos traitements, tout de même, font quelques dégâts, on le sait, on en est conscient. Si on peut les minimiser à travers une prise en charge par notre socio-esthéticienne, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, l'autre chose, eh bien oui, c'est les moyens techniques. Les moyens techniques, on a une très haute technicité dans ce pôle de cancérologie, au niveau de l'hématologie, secteur de greffe qui a un système de traitement LER qui, je crois, est unique en France. C'est le même système qui est utilisé dans les stations spatiales. Donc, pour vous dire, particules, rien. Pas un microbe, pas une particule. Donc, c'est tout de même garant pour éviter les infections de patients qui sont en aplasie, qui sont avec un greffon médulaire en train de prendre. Au niveau de la radiothérapie, 3 accélérateurs nouveaux qui permettent de faire tous les types de radiothérapie que l'on veut, de radiothérapie stéréotaxique, des radiothérapies qui sont adaptées à la respiration des gens de façon à irradier les plus petits volumes. La curithérapie, c'est pareil. Avant la curithérapie, on posait des fils radioactifs. Le patient restait enfermé dans des chambres plombées pendant 5 jours. La radiothérapie au débit, c'est une séance de 10 minutes, peut-être 2 fois ou 3 fois. Le patient devient ambulatoire. Donc, ça transforme la vie, ça transforme la prise en charge des gens. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Le pôle, c'est mettre à disposition tout ce qu'il y a de mieux. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être que dans 10 ans, ça sera dépassé. On y a pensé. C'est-à-dire que là, on a par exemple en radiothérapie 4 accélérateurs, on en a 3 neufs, on en récupère un ancien qui peut encore marcher pendant 2-3 ans, et puis on a encore de quoi construire 2 autres blocos. Ce qui veut dire que dans 2-3 ans, quand on changera le 4e accélérateur, l'évolution des choses sera telle qu'on en prendra un qui fait encore autre chose, et ainsi de suite. Donc il faut qu'on assure l'évolution de la prise en charge, et ça, ça a été prévu aussi dès le départ.
Très bien. Des questions dans la salle ? Oui, allez-y, madame.
Alors moi, je suis prise en charge par le service oncologie radiothérapique du CHU depuis 2 ans. Mais rassurez-vous, je suis dans les 95% des tumeurs à 5 ans, curables à 5 ans pour les tumeurs inférieures à 10 mm. Tumeurs de 1 mm.
Grâce au dépistage ?
Dépistage individuel nécessité par des antécédents familiaux. Et en fait, je vis comme si je n'avais rien eu. Alors, c'est une question qui s'adresse à vous, monsieur le professeur Tourani. Dans une interview à Centre Presse, en septembre 2007, à l'occasion de la pose de la première pierre du PRC, vous avez déclaré au sujet des moyens de traitement de l'avenir, en dehors, je cite, en dehors des infections, le cancer est la seule maladie qu'on guérit. Est-ce simplement pour rassurer ou bien est-il permis d'être réellement très optimiste en ce qui concerne le traitement des cancers ?
Rassurez-vous, je redis ce que j'ai dit, effectivement. Il n'y a que 2 maladies que l'on peut guérir. Les infections, parce qu'une infection, vous prenez des antibiotiques, après vous arrêtez vos antibiotiques, vous n'avez plus de maladie et plus de traitement. Et certains cancers, la chirurgie guérit des cancers, la radiothérapie guérit des cancers, et puis maintenant, vous n'avez plus de traitement. Vous prenez un diabétique, vous prenez un hypertendu. Ils ont toujours un traitement. Ils se disent pas malades, heureusement. Mais s'ils arrêtent le traitement, la maladie revient. C'est ça que cela veut dire.
On a une question ici, monsieur, et puis une question dans le fond. Attendez, on va venir chercher le micro, vous inquiétez pas, madame.
Oui, je vous remercie. Bon, tout à l'heure, vous avez évoqué la curithérapie et la radiothérapie, si j'ai bien compris. La curithérapie, c'est une implantation d'un métal radioactif dans la tumeur et on met les gens dans un blocos pour protéger le monde extérieur. Et la radiothérapie semblerait, si j'ai bien compris, traiter les gens en 10 minutes. Alors, non, c'est pas ce que j'ai compris. Parce que sinon, je me suis dit, il faudrait.
Sinon, tout le monde va faire de la radiothérapie.
Tellement plus violente que ce serait pas un blocos qu'il faudrait.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 systèmes d'irradiation pour irradier les gens, c'est-à-dire de leur délivrer un rayonnement pour détruire la tumeur. Soit on utilise ce qu'on appelle un accélérateur de particules, c'est-à-dire que la source est à l'extérieur, envoie un rayonnement comme une lumière, on va simuler par exemple une lumière, qui traverse la peau et qui va jusqu'à la tumeur. On appelle ça une radiothérapie externe, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. La radiothérapie externe, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est-à-dire que ce sont des séances qui durent quelques minutes et qui sont renouvelées tous les jours, en moyenne 5 jours par semaine, pendant 4 à 6 semaines pour atteindre la dose totale. Mais vous concevez que le rayonnement qui va de l'extérieur vers l'intérieur traverse un certain nombre de substances de tissus sains et donc laisse quelques dégâts. Bon. Avec les systèmes modernes d'irradiation, ces dégâts sont minimes maintenant. La curithérapie, elle, va de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que l'on met la source radioactive au sein de la tumeur. Et cette source radioactive va délivrer le maximum de rayonnement dans la tumeur, et plus on s'éloigne, moins il va y avoir de rayonnement. Et donc, on peut combiner les deux, ou on peut faire que la radiothérapie externe, ou que la curithérapie. La curithérapie a l'avantage, par exemple, quand on fait une curithérapie de prostate, eh bien, le reste du bassin est globalement pas irradié. La zone irradiée, c'est la prostate, un peu le rectum qui est derrière, un peu la vessie qui est au-dessus. C'est tout. Alors que la radiothérapie externe, elle traverse les intestins, traverse l'os, traverse la peau et tout ça.
Oui, mais alors, si j'ai bien compris, la curithérapie dure très longtemps. Ça veut dire...
Avant, la curithérapie était une curithérapie qu'on appelait de bas débit, c'est-à-dire que la source, pour délivrer sa dose, on la laissait 4 à 5 jours. D'accord. Maintenant, les sources sont beaucoup plus puissantes, ce qu'on appelle les curithérapies à haut débit, et on a l'équivalent de 5 jours, parfois en 2 séances de 10 minutes.
Merci.
Oui, bah juste à votre voisine, il y aura quelqu'un au fond de la salle, et puis monsieur devant.
Bonsoir, j'avais plusieurs questions à poser dans des registres différents. En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, on parle de la mammographie en dépistage systématique. Souvent, j'ai remarqué que les radiologues éprouvaient le besoin de faire une échographie qui était liée à la mammo. Or, celle-ci n'est pas apparemment prise en charge et je voulais savoir pourquoi, puisqu'il semble que pour avoir une certitude... Le radiologue en général aime mieux faire écho plus mammo.
Oui, donc l'échographie n'est pas systématique dans le cadre du dépistage. Mmh. Normalement, lorsque la mammographie est normale, ça ne justifie pas une échographie. L'échographie, elle peut être justifiée soit parce qu'il y a déjà une anomalie qui est visible sur la mammographie, auquel cas on va faire une échographie pour essayer de préciser le diagnostic. Elle peut être aussi justifiée lorsque les femmes ont des seins denses et que la mammographie ne donne pas une image très claire et que l'échographie, elle, peut permettre de voir certaines choses sur ces seins denses. Alors, c'est vrai que le cahier des charges nationales n'a pas prévu le remboursement de l'échographie par la gratuité, plus exactement, la non-avance de frais pour l'échographie. Localement, on n'y peut rien, on applique un cahier des charges nationales. Par contre, il y a déjà plusieurs années, les caisses d'assurance maladie dans le département ont signé des accords, une convention avec les radiologues. Et lorsque les femmes ont une mutuelle complémentaire, c'est quand même le cas de la grande majorité des femmes, de 85 ou 90% des femmes, à ce moment-là, normalement, il n'y a pas d'avance de frais. C'est-à-dire que le radiologue est remboursé directement par la mutuelle complémentaire. C'est ce qui avait été signé, c'est ce qui devrait être fait.
J'entends bien ce que vous dites, mais j'ai fait partie du dépistage systématique et il me semble bien avoir payé mon échographie dans un cabinet qui était conventionné, c'est-à-dire proposé par DocVie.
Oui, tout à fait. Mais normalement, les radiologues avaient signé un engagement pour les femmes ayant une mutuelle.
Vous aurez une réponse à leur apporter la prochaine fois.
Voilà.
Elle avait une autre question, je crois, madame. Et puis il y avait quelqu'un qui attendait derrière aussi.
Donc, pendant que je le tiens, alors je vais continuer. À propos de la vaccination contre HPV, donc, quel est son prix et est-il remboursé aussi? Parce que je crois qu'il est assez onéreux. J'ai entendu des mamans qui le faisaient faire pour leur jeune fille et qui étaient un peu étonnées du coût.
Alors, au départ, il était cher et non remboursé. Maintenant, il est moins cher. J'avoue, je voulais regarder cet après-midi, je n'ai pas eu le temps. Il est moins cher et il est remboursé. Donc, ce qui veut dire par là que les gens qui ont une complémentaire, c'est il y a aucune avance de frais.
D'accord. Alors, et quels sont les effets secondaires peut-être, je ne sais pas si la question est peut-être hors sujet, mais vous me l'éliminerez, des traitements contre les adénomes de la prostate. Vous avez parlé beaucoup d'effets secondaires des traitements contre les cancers. L'adénome n'est pas un cancer, je sais, mais souvent ça peut évoluer. On a un suivi d'adénome quand même. Je sais que ce n'est pas directement lié, mais quels sont les effets secondaires des traitements des adénomes, alors?
On s'est accordé pour cette fois. Hein, les autres, vous restez dans le sujet.
Hein. Un petit complément par rapport à la question précédente, que m'a dit Jean-Marc Tourani. Pour le remboursement, il faut quand même être dans les tranches d'âge que je vous ai données tout à l'heure, hein, c'est-à-dire entre 14 et 23 ans. en dehors de ces tranches d'âge, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale théoriquement, pour le moment. Car il n'y a aucun, a priori, aucun intérêt non plus à le rembourser pour le faire pour quelqu'un qui a 30 ou 35 ans. Alors, par rapport à votre question sur la prostate, il n'y a aucune filiation, si vous voulez, entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer. Par contre, on peut parfaitement faire, malheureusement, et l'un et l'autre. Ils ne sont pas exclusifs. Par contre, les traitements que l'on propose, que ce soit des traitements chirurgicaux, des traitements médicaux, n'ont aucune interférence sur le développement d'un cancer de la prostate.
Si madame veut bien passer son micro, parce que je vois bien qu'elle a envie de le garder, mais non. Il y a aussi quelqu'un derrière après, hein, on le passera parce que ça fait plusieurs fois que les mains se lèvent là-bas, et je sais qu'il y a aussi une question devant. Allez-y, madame.
Ah, c'est moi ?
Oui, bah, c'est vous qui avez le micro. Alors je vous...
Bonsoir, vous parlez pour le dépistage du cancer à partir de 50 ans, souvent, du sein, du cancer du sein. Pourquoi le médecin, le gynécologue, nous demande de faire un dépistage à partir de 40 ans ?
Oui, c'est une bonne question. Alors donc, je vous l'ai dit, on est contraint, il y a un cahier des charges nationales et qui a été appuyé par un certain nombre de recommandations nationales. On sait qu'à partir de 50 ans, dans la tranche d'âge 50-74 ans, c'est d'une part là que le cancer du sein est le plus fréquent, et c'est d'autre part là que la mammographie a la meilleure efficacité pour le diagnostiquer, puisque avant la ménopause, les seins sont plus denses et plus difficiles à interpréter sur le plan radiologique. Ceci étant dit, on sait bien effectivement qu'il y a des seins avant l'âge de 50 ans. Donc il y a eu toute une discussion au niveau national, au niveau d'un organisme qui s'appelait l'Agence nationale d'accréditation, enfin bref, en santé, qui donne des grandes orientations pour savoir s'il fallait démarrer ou non avant 50 ans le dépistage. Donc dans ce genre de réunion, il y a des experts en tout genre, des épidémiologistes, des cancérologues, des gynécologues, des radiologues, et ils ont discuté et ils ont conclu, mais à une toute petite majorité effectivement, que dans l'état actuel des choses, il fallait se centrer sur la tranche d'âge 50-74 ans, essayer sur cette tranche d'âge d'avoir un bon taux de participation avant d'envisager éventuellement d'élargir le dépistage à un âge un petit peu inférieur. Puisque la discussion c'était est-ce qu'on continue à rester sur 50 ans ou est-ce qu'on commence à 45 ans. Donc ça c'est les recommandations nationales, on commence à 50 ans. Après, chaque médecin ou chaque gynécologue est libre dans le système français de ses choix diagnostiques et thérapeutiques. En plus de ça, il faut tenir compte des antécédents familiaux. Hein. Je vous ai bien dit tout à l'heure que le dépistage organisé s'adressait aux personnes qui n'ont pas de risque particulier. À partir du moment où une femme a un risque particulier, c'est-à-dire des antécédents familiaux de cancer dans la famille, on peut être amené à démarrer le dépistage plus tôt. Mais là, c'est une décision individuelle du médecin et de la patiente.
De la même manière, pour, je vous laisse la parole, parce que je faisais, mais de la même manière, les frottis, certains médecins estiment que tous les 3 ans, ce n'est pas suffisant, ils le font faire tous les 18 mois. Enfin...
Oui.
Allez, à vous de répondre.
En effet, je pense qu'il ne faut pas confondre, je parle à la question précédente, il ne faut pas confondre le dépistage organisé et le dépistage individuel. On peut très bien faire du dépistage individuel à partir de 40 ans. Ça dépend essentiellement, par exemple, de l'angoisse de la femme. Ça dépend éventuellement des antécédents familiaux, comme dit Dominique Cos. Ça peut être aussi parce que les seins sont difficiles à examiner cliniquement. Et donc, on peut avoir un complément par la radiologie. Bien qu'à ce moment-là, la radiologie soit moins performante parce qu'on a des seins qui sont très denses. Et c'est là où généralement, les radiologues font en plus, des fois, des échographies parce que la mammographie n'est pas suffisante pour bien cerner les problèmes. Donc, rien n'empêche le dépistage du cancer du sein plus tôt. Du reste, à l'INCa, il s'interroge actuellement s'il ne faut pas faire une expérimentation sur un début de dépistage organisé à 45 ou à 40 ans. Mais ça, on ne pourra le savoir qu'en faisant une recherche sur ces tranches d'âge. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Dominique Coste. Il m'a posé une question, c'était sur...
Non, je disais de la même manière pour les frottis, certains médecins, les médecins les font faire, le gynéco les font faire tous les
jours. J'ai bien dit tout à l'heure, c'était les femmes qui étaient sans risque. Qu'est-ce que je veux dire risque? Risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire des femmes qui ont, par exemple, fument beaucoup. C'est une cause de majoration du risque de cancer du col de l'utérus. Les personnes qui ont de multiples partenaires sexuels, ça peut être aussi une des femmes sur risque, etc. Et puis, c'est pas parce qu'on fait un frottis tous les 3 ans qu'on n'a pas besoin d'un examen gynécologique tous les ans. Et si le col est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, si le généraliste ou le gynécologue trouve une anomalie, rien ne lui empêche à ce moment-là de faire un frottis. Et il n'est plus dans le cas d'un dépistage, puisque normalement le dépistage s'adresse à des gens qui n'ont aucun signe, mais s'adresse à ce moment-là dans un frottis de diagnostic éventuel. Donc rien n'empêche de raccourcir le délai. Mais quand il n'y a pas de sur-risque, quand il n'y a aucun antécédent dans les autres frottis, dans les frottis antérieures, il n'y a aucune raison a priori de raccourcir ce délai de 3 ans, puisque je vous ai dit tout à l'heure que grosso modo, entre une première lésion précancéreuse, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des frottis découvrent heureusement des lésions précancéreuses, entre la lésion précancéreuse et un cancer invasif, il faut grosso modo 10 ans, ce qui veut dire qu'on a quand même 4 chances de faire un frottis dans cette période-là. Voilà. Donc, 18 mois peut-être, mais pas chez toutes les femmes.
D'accord. Il y a une main qui se lève depuis plusieurs moments déjà, là. Demain même. Allez, c'est à vous et après, c'est vous. Oh, ça, c'est, oui, vous avez usurpé le micro, monsieur. Hein. Je plaisante, vous avez usurpé le micro, mais il y avait une dame qui... Non, allez-y avec le micro, parce que tout le monde ne vous entendra pas.
Qu'en est-il de l'oncologie pédiatrique? Et où? Alors, merci, M. Tirani, et bonsoir.
Très bonne question. Jusqu'à présent, l'oncologie pédiatrique, dans l'ancien système que l'on avait, était prise en charge par le service d'hématologie au sein du H6, du 6e étage, au sein du pavillon Le Blé pour les consultations et l'hôpital de jour. Les recommandations de l'Institut national du cancer sont... très précise, les enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie hématologique maligne doivent être dans un milieu de pédiatrie. Ça, on ne coupera pas à ça. Depuis 3 ans, on travaille sur le transfert des enfants atteints d'une maladie maligne en pédiatrie. Ce dossier est terminé. Les procédures sont validées. Ces enfants seront hébergés au 10e étage de la tour Jean-Bernard quand les travaux seront finis. Ils seront finis en septembre. D'ici là, il faut faire avec ce que l'on a. Le pavillon Le Blé est fermé, le 6e est fermé, et donc on accueille les enfants dans le pôle de cancérologie, dans des structures d'adultes, ce qui n'est pas facile à gérer. Le secteur d'hématologie s'est durci au niveau de sa protection, puisque c'est un secteur qui est complètement fermé. Je suis conscient aussi que ça va poser... Disons que la qualité risque de... Cette structure risque de pénaliser un petit peu la qualité. Pas les soins, la qualité, les rapports, oui, je pense que oui, mais on n'a pas d'autre solution. Il n'était pas question qu'on arrête de prendre en charge les enfants jusqu'à l'ouverture de l'autre structure. Alors vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez pas ouvert avant. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est compliqué les opérations tiroirs.
Il y avait quelqu'un d'autre, il y avait plusieurs mains qui s'étaient levées là dans le secteur. Ah, vous avez le micro, allez-y.
Bonsoir professeur, j'ai été soignée pour un cancer du sein par la méthode Marie Curie en 2 temps. Donc on m'a d'abord retiré la tumeur. Et au mois de janvier, j'avais rien. Au mois de septembre, j'avais une tumeur de 17 mm, dans la même année. Donc, j'ai d'abord eu la chirurgie. On m'a retiré la tumeur après avoir fait biopsie. On m'a retiré 4 ganglions sentinelles pour voir s'ils étaient microstasiés.
Parlez bien dans le micro, madame, s'il vous plaît.
Oui. Hein, donc, après l'opération de la tumeur, 8 jours après, on m'a appelé à domicile pour me dire qu'il fallait revoir le professeur Usan, qui est à l'hôpital Tenon dans le 20e à Paris. Et qui m'a convoqué, qui m'a dit, bon, il y a un des ganglions sentinelles qui est microstasié. Donc, on a décidé avec mes confrères de vous faire un curage. Donc, j'ai eu ce curage. Après ces deux opérations, j'ai eu la chimiothérapie, la radiothérapie. Et une chose que je n'ai pas entendu parler, c'est l'hormonothérapie qui a duré 5 ans, avec du arimidex, nolvadex, et après du arimidex, contre les rechutes pour les personnes de mon âge. Donc, je voulais vous dire, quand on m'a arrêté le arimidex, ça a été une chute terrible. Hein. Et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de l'hormonothérapie.
Je n'ai pas parlé nécessairement de tous les traitements. Je n'ai pas parlé des chimiothérapies, je n'ai pas parlé des biothérapies, thérapeutiques ciblées, anticorps monoclonaux. L'objectif n'était pas de décrire les traitements par cancer. Je dirais que l'hormonothérapie fait partie de la prise en charge de certains cancers du sein, pas tous les cancers du sein. Il faut des récepteurs hormonaux, il faut un tas de choses. C'est vrai que l'hormonothérapie, pour nous, c'est de l'ambulatoire, mais ce n'est pas parce que c'est de l'ambulatoire que ce n'est pas difficile à supporter. Je sais que l'inhibiteur de l'aromatase...
Surtout quand on l'arrête. Parce que quand on le prend, on est très en forme et on fait plus jeune même, à la limite. Mais quand vous l'arrêtez, il y a des tas d'effets secondaires.
Les études montrent que... D'abord, au départ, c'était 3 ans. Maintenant, c'est 5 ans.
C'est 5 ans, oui.
Je ne sais pas si dans quelques années, ça ne sera pas 10 ans.
Parce qu'on considère qu'au bout de 5 ans, la personne est sauvée.
Les études montrent actuellement que...
En 8 ans de traitement, quoi.
Les études montrent actuellement qu'entre 3 ans d'hormonothérapie et 5 ans d'hormonothérapie, il y a un bénéfice à traiter 5 ans. C'est tout ce que ça montre.
D'accord.
Il vaut mieux traiter 5 ans que 3 ans.
Bien sûr. Et si on a des problèmes familiaux, par exemple, est-ce qu'on peut aller au-delà des 5 ans ?
Si vous voulez, peut-être ce qu'on pourra faire, c'est que vous pourrez en discuter peut-être à la fin de la réunion.
S'il vous plaît, je voudrais bien savoir.
D'accord, parce que là, c'est vrai qu'on parle davantage de la fréquence et des dépistages, donc plus que des traitements. C'est pour ça que ce n'était pas le sujet qui avait été abordé. Mais vous pourrez discuter avec le professeur après. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui, je ne vous oublie pas. Alors, monsieur, allez-y, puis on parlera.
Est-ce qu'il est systématique de faire une biopsie s'il y a un taux de PSA supérieur à 4?
Là, on parle pour le dépistage.
C'est une bonne question. Je pense qu'il faut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, coupler le PSA avec le toucher rectal. Ça dépend du taux. Si c'est 4,2, on ne va pas le faire, forcément. Si c'est 12, on le fera peut-être. D'accord ? Mais il n'y a pas. Le 4 a été fixé actuellement comme un valeur seuil. Ce seuil pourra peut-être bouger au fil de l'eau. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dessous de 4, on peut avoir un cancer. Au-dessus de 4, on ne peut pas avoir un cancer. En fait, il faut couper le toucher et le taux de PSA. Mais il y a de fortes chances quand même pour que si le taux de PSA soit élevé, à ce moment-là, on fait généralement, on complète par une échographie. Et généralement, on peut faire soit un taux 6 mois, 8 mois, 12 mois plus tard pour voir si ça évolue. Parce qu'on a la surprise parfois de voir des taux qui augmentent brutalement, mais aussi des taux qui baissent brutalement. Et on peut se servir de ce qu'on appelle la cinétique du PSA, attendre donc un petit peu avant de proposer une biopsie. Car la biopsie n'est quand même pas un geste tout à fait simple, c'est évident. Et moi, j'ai dans ma clientèle des patients qui ont des taux de PSA qui oscillent autour de 7, 8 ou 9, ont déjà eu deux biopsies et pour lesquelles certainement on va baisser les bras parce que c'est des taux qui sont stables, élevés mais stables, et ils font peut-être un cancer un jour, mais pour le moment il n'y en a pas.
Alors juste derrière vous, et c'est promis, c'est vous après. Juste derrière vous.
C'est peut-être une question qui s'adresse à monsieur Ingrand. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ou bien entendu tout à l'heure. C'était à propos des cancers bronchopulmonaires, notamment chez les femmes. Et est-ce que vous pouvez repréciser, s'il vous plaît, est-ce qu'il arrive fréquemment ou non qu'un cancer bronchopulmonaire apparaisse alors que la personne a arrêté de fumer depuis plusieurs années, 15-20 ans par exemple? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la réponse à cette question.
Alors, concernant la deuxième partie de... Parlez bien dans le micro, monsieur Ingrand, s'il vous plaît.
Concerne aussi des fumeurs pour les inciter à arrêter le tabagisme, mais de nombreuses études ont confirmé que l'arrêt complet du tabac s'accompagne d'un retour à un niveau de risque qui est celui du non-fumeur en quelques années. Si l'arrêt est complet et s'il y a une bonne observance de l'arrêt du tabac. Ceci dit, même des gens qui ne fument pas ont parfois des cancers bronchopulmonaires, parce qu'il y a d'autres facteurs toxiques dans l'air ambiant, et puis un certain nombre de facteurs qu'on ne connaît pas, qui peuvent aussi être à l'origine d'un cancer bronchopulmonaire. On connaît un certain nombre de facteurs liés aux environnements professionnels. Alors ensuite, concernant les femmes en particulier, on ne pense pas pour le moment qu'il y ait une susceptibilité particulière des femmes, ou une protection particulière des femmes par rapport au risque de cancer bronchopulmonaire. La relation qu'on établit, c'est que autrefois, les femmes ne fumaient pas. Autrefois, il n'y avait pas de cancer bronchopulmonaire chez les femmes. Et puis progressivement, les femmes se sont mises à fumer. Actuellement, c'est vrai que quand on regarde à la sortie d'un lycée, il y a bien autant de filles que de garçons qui ont une cigarette. Ce qu'on voit, c'est que chez les garçons, eh bien, on arrive à avoir des messages de prévention qui arrivent à lutter contre l'idée que pour être un homme, il faut avoir une cigarette à la bouche. Au contraire, maintenant, la cigarette, ça a plutôt une image un peu négative. Et puis, bah, chez les filles, on arrive moins bien à contrarier cette idée reçue. Ce qui fait qu'on voit...
C'est un signe de quoi pour les filles, alors, la cigarette ?
Vous leur demandez. La féminité.
C'est un signe de libération.
D'émancipation. Il y a 40 ans, oui.
Ah non, c'est des éléments de comportement qui ensuite pèsent sur l'évolution des choses. Nos méthodes de prévention doivent tenir compte pas seulement des risques objectifs, mais aussi des comportements qu'ont les individus et savoir ce qu'ils recherchent pour pouvoir faire passer des messages qui vont être contre-incitatifs. Les éducateurs pour la santé se servent de modèles. Et celui qui marche chez le garçon, là, c'est plutôt le modèle du garçon sportif en bonne santé qui se débarrasse de la cigarette. Donc, on a des tendances quand même qui sont inquiétantes parce que cette progression, elle est installée depuis déjà plusieurs années chez les jeunes femmes. On en mesure maintenant les conséquences en termes d'incidence de cancer et de mortalité. Vous avez quand même vu sur la courbe que pour les femmes, c'est encore très en dessous des hommes. Mais une telle progression doit nous alerter parce que la prévention que l'on entreprend aujourd'hui n'a réellement ses effets que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Très bien, je vous remercie.
C'est à vous, promis.
Allez-y. Donc, je me mets là pour que mes collègues sourds puissent me voir, signer. Donc, d'abord, merci à Mendes France d'organiser une conférence accessibilité. Et avec une accessibilité pour les personnes sourdes. Cette information pour la santé est importante pour nous. Donc c'est vrai qu'au CHU, régulièrement, les personnes sourdes y vont et l'accessibilité, c'est pas toujours ça. Donc une conférence comme aujourd'hui, c'est intéressant. Donc c'est vrai qu'on se bat au sein du CHU pour l'ouverture d'une unité de soins pour sourds. On n'a pas réussi encore et donc je voulais vous demander si vous pouviez un petit peu nous aider à convaincre le CHU de l'ouverture de ce pôle spécialisé pour les personnes sourdes. Donc tout à l'heure, effectivement, il y a eu des interprètes qui étaient là. Je pense que, je ne sais pas, est-ce que vous, en tant que médecin, soit au sein de l'hôpital ou en tant que libéral, vous êtes gêné par la présence d'une tierce personne dans la relation avec le patient? Ensuite, troisième question. Vous nous avez parlé que vous travaillez en équipe pluridisciplinaire parce qu'il est nécessaire effectivement d'avoir un certain nombre d'informations partagées pour proposer le meilleur traitement. Donc effectivement, si on ouvrait un pôle spécial pour les personnes sourdes, est-ce que vous accepteriez de travailler avec des personnes bilingues ou connaissant la langue des signes, voire sourds, dans votre équipe pour adapter encore plus les traitements aux patients sourds?
Très bien.
Bien.
Vous n'êtes pas venu pour rien. Hein.
Non, c'est intéressant. C'est vrai que les personnes sourdes ou muettes ont des difficultés ou on leur cause des difficultés d'intégration dans des structures qui ne sont pas vraiment adaptées à eux. Ça, on le sait. Moi, j'en ai eu la preuve il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 à 8 mois, où j'ai eu en charge un patient qui était sourd, muet et aveugle. Ça n'a pas été simple, il voyait un petit peu, tout le monde, il voyait un petit peu. Et donc, pour ça, on a un accès assez facile, il faut le reconnaître, à des interprètes. Par contre, ces interprètes ne sont pas salariés de l'hôpital, ce qui fait qu'ils viennent que sur des appels et il y a des problèmes de disponibilité parfois. Quand vous avez une personne sourde muette hospitalisée pendant une semaine, c'est vrai que c'est pas facile. Alors le personnel se plie en quatre pour essayer de, disons, de correspondre. On y arrive tout de même, mais on peut pas à l'heure actuelle avoir un interprète permanent. Alors, je dis pas que c'est pas qu'on ne pourra pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas envisageable. Par contre, la demande que vous me faites, je crois que j'ai un directeur. Il est parti, mon directeur ? Non, il est là-bas au fond, mon directeur. J'ai un directeur, mon directeur de pôle de cancérologie, M. Chalet, qui rigole. M. Chalet, je pense qu'il faut prendre en compte peut-être cette demande pour améliorer peut-être l'accès de ces interprètes. Maintenant, la deuxième question que vous posiez, qui était, est-ce que c'est gênant d'avoir un interprète lorsqu'on consulte, qu'on est en consultation avec un patient? Moi, je dirais non. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué pour la bonne raison que l'interprète est derrière. L'interprète se met derrière de façon que nous, on parle au patient. Après, le patient comprend par l'interprète. Que le patient ne regarde pas, ça ne me gêne pas, puisqu'il y a l'interprète. Mais l'interprète souhaite toujours se mettre derrière. Donc nous, l'interprète, on ne le voit pas. Alors parfois, il nous dit, c'est vrai de ralentir. Alors on ralentit. Mais alors la consultation est un peu plus longue. Ben oui, mais il faut faire avec. Donc voilà, la présence d'un interprète ne me gêne pas. Peut-être qu'elle peut gêner le malade, mais si c'est son moyen de compréhension, il l'accepte. La troisième question, c'était quoi ? Ah oui, pour les...
Voilà, la présence... Oui, au sein de la structure CHU, là.
Je pense que c'est ce que j'ai dit au départ, avoir des interprètes pour des gens qui sont sourds-muets, je pense que on les a sur demande et on les a pas à disponibilité en permanence, c'est vrai. Et puis quelqu'un qui est hospitalisé pendant plusieurs jours, alors je parle de la cancérologie, mais il y a d'autres services comme la chirurgie où c'est peut-être aussi un gros problème. Là, moi, je n'ai pas de lisibilité là-dessus. Peut-être que M. Chalet... Oui, vous me sauvez toujours les mauvaises...
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, plutôt, oui. Alors, effectivement, bon, la question, elle est intéressante, mais dans toute organisation... humaine, et les organisations médicales en font partie, on est obligé à un moment donné de choisir le moins mauvais des compromis. C'est vrai que on peut se dire et si on avait des services spécialisés pour accueillir les personnes qui utilisent le langage des signes, mais quel sera le meilleur soin ? Un service exclusivement dédié aux personnes malentendantes, dans lequel on serait capable de traiter toutes les maladies ? Est-ce que c'est bien réaliste ? Est-ce que la solution n'est pas finalement pire que celle d'aujourd'hui, où on accueille des personnes dans un secteur spécialisé pour prendre en charge telle ou telle maladie avec l'aide d'un interprète? Parce que quelque part, il n'y aura pas, même au niveau national, je ne vois pas comment on ferait, il faut rester réaliste, un centre de cancérologie exclusivement dédié aux personnes malentendantes. Et à côté, un centre de traitement du diabète. Et à côté, un centre cardiologique. Et à côté, un centre de chirurgie du rachis. Donc, on voit bien que, de toute façon, pour prendre en charge les patients, il y a des compromis à faire, des compromis entre des avantages et des inconvénients. Je crois que la meilleure solution, c'est que nous puissions développer davantage une collaboration avec les associations de personnes malentendantes de façon à faciliter justement ces interprétariats, de disposer peut-être de davantage de temps, et ça, on y est tout à fait prêt. On rencontre, vous savez, la même difficulté, avec statistiquement peut-être la même fréquence, lorsqu'une personne russe, ukrainienne, chinoise, japonaise, tchèque, a un accident en Poitou-Charentes et qu'il arrive chez nous. Notre seul moyen d'avoir des interprètes dans toutes ces langues, et ça peut être plusieurs centaines de langues, eh bien, c'est de faire appel aux associations qui nous mettent en relation avec des interprètes. Et notre meilleur recours, d'ailleurs, ce sont les services de la mairie de Poitiers qui ont des relations avec beaucoup d'associations sur les questions d'interprètes. Voilà. On peut se revoir tout à l'heure. Et au même titre que nous avons des relations privilégiées avec des associations de patients, de malades, du cancer, les laryngectomisés, les porteurs du cancer de la prostate. Nous avons même une convention avec une association d'anglophones de porteurs du cancer, puisqu'il y a en Poitou-Charentes beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas du tout français, et que ça facilite grandement la vie, et donc, bien entendu, aussi avec les associations de représentants de malentendants. Mais nous avons besoin d'interlocuteurs. On ne peut traiter ces questions-là qu'à travers les associations qui représentent les personnes qui ont cet handicap, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, à un moment donné, je me répète, il faut choisir la moins mauvaise solution.
Merci bien. Il veut juste ajouter quelque chose. Venez.
Alors, votre réponse n'est pas celle que vraiment ce que j'attendais. Parce que c'est vrai que j'ai résumé, effectivement, mon intervention. Donc, je vais essayer le choix le moins mauvais ou le meilleur. C'est vrai que, moi, j'ai choisi d'essayer de vous parler brièvement. Mais, bien sûr, on ne peut pas créer un service exclusivement pour les personnes sourdes, quelle que soit la spécialité médicale, bien sûr. Mais il y a effectivement des directives du ministère de la Santé qui disent que pour toute ville relativement importante, il doit y avoir un pôle surdité là qui accueille les personnes sourdes qui sont ensuite dispatchées dans les services correspondant à leur pathologie, bien sûr. Le pôle cancer, le pôle, c'est éviter effectivement les études, les statistiques. Les personnes sourdes pourraient y participer. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un accueil quelque part en langue des signes pour que avec une équipe bilingue, il y a des directrices du ministère de la Santé. Je sais pas pourquoi à Poitiers ça se crée pas, mais en tout cas, ça existe dans de nombreuses villes. On en reparlera, mais c'est vrai qu'il suffit. On en parlera tout à l'heure. Effectivement, je vous donnerai le site, mais en tout cas, ça existe ailleurs. Et voilà, c'est pas à créer à Poitiers. C'était assez court, ça va ?
On développera notre partenariat, je suis d'accord.
C'est pour moi le micro.
Je suis d'accord pour qu'on développe notre partenariat.
Bon, vous pourrez en parler après, parce qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps pour discuter encore et du dépistage et de la fréquence des cancers. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Oui, monsieur.
Oui, bonsoir. Une question, éventuellement une deuxième. La première, est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir à une nette augmentation des services apportés par les appareils, par l'aspect physico-chimique, de façon à déterminer la nature exacte du cancer, afin d'éviter biopsie et histologie. Entre parenthèses, éviter quelques petites métastases quelquefois. Enfin bon, ça c'est peut-être un aspect négatif que je rajoute. Mais première question, voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à un progrès nettement significatif? Je parle des fibroscopies, échographies et autres examens non invasifs.
Alors, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul moyen d'affirmer un diagnostic de cancer, c'est de récupérer un morceau de la tumeur, de l'analyser et de porter le diagnostic. Maintenant, c'est comment récupérer ce morceau. Il faut savoir qu'il doit avoir tout de même un certain volume, parce que s'il est trop petit, on ne peut pas faire de coupe, et ainsi de suite. Les examens actuellement disponibles sont basés sur des prélèvements soit par voie endoscopique, dans les bronches, dans l'intestin, dans l'estomac, soit par un abord chirurgical quand la tumeur ne peut être abordée par voie endoscopique, ou par des systèmes de ponction à l'aiguille sous scanner ou autre. Je ne vois pas aujourd'hui, si ce n'est d'améliorer la qualité et la qualité de ces examens et d'en diminuer les inconvénients, si c'est possible, et les douleurs qu'elles peuvent occasionner, je ne vois pas comment on pourrait aborder différemment le diagnostic du cancer. Actuellement, il n'y a pas d'examen biologique, de prise de sang, pour dire si cet individu a tel type de cancer. On l'a bien vu, un taux de PSA à 10, 12, ça ne signe pas un cancer. Vous vous rendez compte, ça serait lourd de conséquences de traiter pour un cancer quelqu'un qui n'en a pas. On a déjà vu les effets secondaires. Je pense que non. Par contre, la biologie va nous apporter peut-être beaucoup de choses. La biologie, on vous a expliqué, dans le cancer de la prostate, il faut savoir que dans une population qui est décédée de n'importe quoi, sauf d'un cancer de la prostate, à 80 ans, quand on fait des autopsies, on trouve 80% de cancer de la prostate chez ces gens-là, alors qu'ils n'en sont pas morts et que ça ne les a pas gênés du tout. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont un cancer de la prostate qui n'évolue pas. Puis il y en a d'autres qui ont un cancer de la prostate qui évolue. Je prends l'exemple de la prostate, mais on a le même exemple dans d'autres maladies. Et donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est pour nous de savoir qui va falloir traiter et qui va falloir ne pas traiter. Et là, les données, la biologie va pouvoir nous aider. La biologie va aller plus loin dans la compréhension de l'agressivité d'un cancer ou de sa non-agressivité. Je pense que c'est là où il va falloir qu'on fasse des progrès énormes. On les a fait déjà dans certains cancers. Le cancer du sein, on a fait d'énormes progrès. Il y a des gens que l'on ne traitait pas avant, que l'on traite maintenant. Et puis, il y a des gens que l'on traite, et malgré les traitements qu'on fait, ça ne va pas. Or, on s'est aperçu que ceux-là, ils devraient nécessiter un traitement encore plus fort. Donc, on va réussir à sélectionner des populations et à adapter des traitements en fonction des risques de ces populations. Mais ça passe par autre chose que de l'analyse au microscope et tout ça. Ça passe par la biologie moléculaire, ça passe par un tas de choses. On est en train d'avancer là-dessus, et on va peut-être arrêter de traiter des gens parce que on les a traités parce que ça ressemblait au voisin, mais que celui-là, génétiquement ou biologiquement, il n'est pas pareil, c'est pas la peine de le traiter parce qu'il est déjà guéri. Et puis d'autres, que l'on pensait avoir une maladie gentille, biologiquement, ils vont avoir une maladie agressive, et on sait qu'il faudra les traiter davantage. Donc, à mon avis, la biologie va plutôt mieux cibler qui il faut traiter et comment traiter. Voilà, je pense que c'est surtout là que l'on va. Et puis, va nous permettre de dire, attention, cette tumeur va être agressive, le malade va, disons, en avoir des symptômes et va peut-être en mourir, il faut le traiter, ou cette tumeur, ça ne l'embêtera jamais, on peut lui laisser, elle n'évoluera jamais. Je pense que c'est ça qui va être, dans les années à venir, le plus important.
Merci. Une deuxième petite question concernant les protocoles de traitement. Est-ce que, parmi votre équipe pluridisciplinaire, vous accordez une place plus importante, je veux dire, aux sensibilités particulières du malade, pas le considérer comme une surface corporelle, un âge, etc. Est-ce qu'au cours du traitement, on va arrondir un peu les quantités ou les augmenter en fonction de sa réaction? Est-ce que c'est pris en compte?
On peut les arrondir jusqu'où on peut les arrondir. Ce que je veux dire, c'est je vais reprendre après l'ensemble, si c'est respecter la volonté d'un patient en lui appliquant le traitement qu'il veut, aux doses qu'il veut, en sachant qu'on va être totalement inefficace, je pense que ce n'est pas le but recherché. Ce que je veux dire, c'est que on est en pluridisciplinarité, on a des réunions de concertation, on nous présente des dossiers, le médecin référent du malade nous présente un dossier, soit physiquement, soit par visioconférence, puisqu'on est tous reliés en visioconférence. Qu'est-ce que fait la réunion de concertation pluridisciplinaire et les spécialistes? Ils font une proposition de traitement. Ils font une proposition. La seule personne qui est habilitée à décider du traitement, c'est même pas le médecin référent, c'est le malade. D'accord? Donc le médecin référent, il va soumettre au patient la proposition de traitement qui lui est fait, va lui en donner les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors c'est peut-être dur. Est-ce qu'on peut en attendre une guérison? Est-ce qu'on peut en attendre une prolongation de la vie? Est-ce qu'on peut en attendre rien? Et puis c'est le malade qui décide. Alors les malades nous disent, certains décident, d'autres disent, mais t'as vu, quand vous voulez qu'on décide? Oui, mais là on est dans une époque où le malade a un peu de choix. Alors on laisse pas décider tout seul, bien sûr, mais quand parfois on a des situations où nous-mêmes on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire parce qu'on ne sait pas si on va apporter quelque chose, on laissera plus facilement le malade décider en fonction de sa culture, de son mode de vie, et ainsi de suite. Mais quand on est convaincu que le traitement qu'on propose peut guérir un malade, on lui donnera un petit peu moins le choix. Voilà.
On peut être plus persuasif. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Allez-y, madame. Oh, vous en avez déjà posé beaucoup. Hein. Bon, elle est assez accordée. C'est...
Vous nous avez dit qu'il y avait une socio-esthéticienne, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas si c'est à elle ou à vous que s'adresse ma question. À propos de la chute des cheveux, justement, enfin des soins qui peuvent être apportés, pas directement donc pour traiter le cancer, mais tous les effets secondaires plutôt. Alors, est-ce qu'on utilise toujours, est-ce qu'on a autant de chutes de cheveux où les molécules sont moins agressive, ou est-ce qu'on a trouvé des moyens de contourner cet obstacle? Voilà. Est-ce qu'il y a des casques réfrigérants? Enfin...
On va faire une réponse à deux, alors. Actuellement, on a des molécules qui font tomber les cheveux et on a des molécules qui ne font pas tomber les cheveux. L'objectif de... Quand on a une molécule, ce qui nous intéresse, c'est son efficacité. C'est pas le... Je suis désolé de le dire, c'est pas le problème des cheveux. Actuellement, le seul moyen que l'on a, c'est le port du casque réfrigérant pendant le passage des molécules. Maintenant, je vais passer à Corinne qui est derrière, qui voit ça au quotidien et qui gère ces patients-là au quotidien. Sa vision des choses, comment c'est pris par les patients et puis qu'est-ce qu'on peut leur proposer.
Bonsoir. Je vais continuer un petit peu ce que vous venez de dire, Monsieur Tourani. Donc, effectivement, ça dépend des molécules et des traitements. Donc, ce qu'on peut proposer aux patients qui ont des traitements qui sont, on va dire, peu allopéciants, c'est effectivement le port du casque qui permet de prolonger, en fait, de retarder la chute des cheveux et parfois qui permet de garder sa chevelure tout au long du traitement. Mais ça, bien entendu, ça dépend des molécules. Ça, on fait en fonction du traitement qui est proposé aux patients. Voilà.
Sinon, vous, Corinne, vous les aidez aussi?
Parlez un petit peu de votre rôle, oui, peut-être.
Oui, par rapport à l'allopécie, c'est vrai que je prends en charge les patients dans le sens où je les informe effectivement de ce qui va se passer par rapport au traitement qui leur est proposé, et aussi beaucoup les rassurer dans le sens où l'alopécie n'est pas définitive et les cheveux repoussent dès qu'on arrête les traitements. Voilà. Donc ça, c'est important de redire aux patients, de dire qu'il y a des solutions en attendant que ça revienne, quoi, comme avant.
Très bien. Bah, écoutez, je pense que c'est l'heure. On essaie d'être assez ponctuel à Madès France sur les horaires, donc... Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Juste une petite chose. C'est la dernière conférence de la saison. Nous nous retrouvons maintenant en octobre avec pour thème la réanimation médicale. D'ici là, on vous informera des dates parce qu'elles ne sont pas encore précisées. N'oubliez pas le questionnaire d'évaluation que vous avez dans votre documentation. Peut-être si, juste une chose, si on pouvait mettre quelques minutes la diapo où il y avait noté tous les sites internet, si ça vous intéresse, pour que vous puissiez noter les sites qui peuvent vous intéresser, parce qu'elle est passée un peu rapidement tout à l'heure. On va la laisser, on peut la laisser quelques instants. Non, on peut pas. Si, on va faire. Oui, d'accord. Très bien. Comme ça, vous pourrez les prendre en note. Et puis, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.
Thank you.